Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la Miracle Morning, du coup, ça a changé ta vie?
Je sais pas.
C'est pour le titre du podcast, en fait. Si tu dis oui, après je peux mettre Léna Dorable, la Miracle Morning a changé ma vie. Oui. C'est bon, j'ai mon titre.
Et je trouve ça dommage que la flemme prenne le pas sur des ambitions, sur des moments de vie, sur des... Parce qu'au final, la flemme, au bout de ta vie, tu t'en rappelles pas de ces moments-là, quoi.
Ouais, c'est ça, tu pourras pas tenir tes enfants sur la jambe et te dire mamie, elle aurait pu avoir une meilleure vie, mais mamie,
la flemme. ça le fait pas du tout.
Mamie, t'as des histoires à me raconter? Non.
Non, j'avais la flemme.
Mesdames et messieurs, je suis fier d'accueillir pour la première fois une fille sur le podcast.
Oh là 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 là, quelle honneur.
C'est bon, ça fait plaisir que ce soit toi la première.
Oh, ça me fait très plaisir.
Parce que je crois que t'es aussi une des premières youtubeuses avec qui j'ai discuté sur les réseaux avant de lancer ce podcast aussi. Donc c'est très cohérent que ce soit toi. Et je suis très content de t'accueillir.
Mais tu sais que moi, quand j'ai découvert ta chaîne YouTube, je me suis vraiment dit, ce mec... C'est genre moi, mais en mec, vraiment. Le même contenu et tout, juste version mec. Et ton contenu, j'ai trop kiffé de suite. Et ça fait trop plaisir qu'on se voit enfin en vrai, qu'on puisse enregistrer un nouveau podcast.
Ouais. Oui, un nouveau parce qu'on en a tourné un sur le tien, sur Dimanche Pépouze.
Yes.
Et ouais, donc là aujourd'hui, c'est un podcast vidéo cette fois-ci. On va parler un petit peu d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'en effet, tu parles aux étudiants. T'es une fille qui a beaucoup de projets en même temps, donc il y a tout ce besoin de s'organiser. Et c'est vrai que t'es quand même assez intéressée par le fait de vivre sa meilleure vie étudiante possible et en même temps de conjuguer une vie étudiante épanouie, une vie sociale et aussi une vie professionnelle que t'as bien développée. Donc je suis très content de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Là, on est à Paris.
Ouais.
Tu viens d'emménager.
Oui.
Comment ça se passe, cet emménagement? Comment tu te sens aujourd'hui?
Eh bien, écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau départ. Genre, ça marque la fin de mes études. Bon, du coup, là, je vais entamer mon stage de fin d'études. Mais ça me fait à la fois tout bizarre de quitter Marseille, parce que c'est un peu ma ville de cœur étudiante. Ça a vraiment été ma ville de transition, où je me suis vraiment sentie mieux. Et là, en fait, d'être à Paris, dans la capitale, et de démarrer une nouvelle vie, je sais pas, ça me fait tout bizarre, mais je sens que ça va être en bon départ.
Ok, parce que là, avant, tu alternais un petit peu entre Paris et Marseille.
C'est ça.
Et tu viens de... Là, c'est bon, t'es à Paris.
Ouais, là, c'est plutôt définitif, mais ça fait vraiment du bien de se poser, parce que j'avoue qu'entre mes stages, etc., j'étais tout le temps entre... Enfin, durant ma vie d'étudiante, j'ai déménagé, je pense, 10 fois, si je me trompe pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'allers-retours, jamais tu te poses dans un seul endroit et tu sais, tu te sens à ta place parce que tu bouges tout le temps. Et c'est que du kiff, mais c'est un peu aussi fatigant et j'avais un petit peu besoin de me poser. Et là, de me dire que je vais pouvoir rester à Paris sur le long terme, c'est assez ouf parce que je suis jamais vraiment restée dans une ville sur le long terme. Et pour mener plein de projets et tout, c'est quand même assez cool.
Ok, c'est vrai que... Donc là, tu arrives à la fin de ton parcours universitaire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours depuis le bac, en gros, jusqu'à aujourd'hui, qui est la fin maintenant de tes études?
On a le temps.
Ouais, c'est vrai que t'es partie au Canada, t'as fait...
Ouais, quand j'étais jeune, du coup, j'ai grandi au Canada, j'étais avec mes parents là-bas. Et ensuite, je suis rentrée en France, j'ai fait mon lycée en France, à côté de Toulouse. J'étais en littéraire. Ensuite, je suis allée en prépa littéraire à Toulouse. Et puis, j'ai un peu bifurqué de la prépa littéraire. Je suis passée en école de commerce, donc c'est pas trop commun. Et là, du coup, j'ai fait 3 ans à Cage Marseille, qui est une école de commerce. Et ensuite, là, je termine mes études et maintenant, je vais être à Paris. Et du coup, j'ai fait mes études en marketing communication. Donc là, c'est mon master 2 et j'ai presque fini. J'ai fait un... enfin, je pourrais encore plus détailler, j'ai fait un double diplôme et tout, mais bon, c'est déjà...
Ouais, t'as eu un parcours, mais donc au début plutôt littéraire et puis ensuite plutôt marketing.
C'est ça.
Et en même temps que tes études de marketing, tu faisais déjà du contenu sur les réseaux, surtout YouTube et Instagram.
C'est ça. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube au lycée. Parce que je trouvais qu'il y avait très peu de contenu orienté étudiant. Justement, j'envoyais beaucoup aux US, en Angleterre, etc. Mais en France, c'était vraiment soit des youtubeuses make-up, soit des youtubeurs gaming. Et il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait vraiment rien d'autre, tu vois. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube dans l'optique de donner des conseils aux étudiants. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours adoré les cours. Je suis peut-être un ovni, mais j'ai vraiment toujours adoré ça.
Apparemment, ça existe.
Mais vraiment, j'avais ces trucs où, comme j'ai grandi assez seule, mes parents avaient. Enfin, c'était assez prenant au niveau de leur taf. Et du coup, j'ai grandi quand même assez seule. Et j'avais pas trop ce bagage culturel que peut te donner tes parents avec leur éducation et tout. Et du coup, le fait de découvrir YouTube, et où là, je pouvais vraiment apporter du coup des conseils et aussi me nourrir autrement que par les cours. Et à la fois, bah, les cours, j'ai aussi kiffé ça parce que ça m'apportait ce que j'avais pas en fait chez moi, où j'apprenais vraiment plein de choses. Et du coup, bah, le mélange des deux, ça a fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube Conseil étudiant. Et après, bah, ça a marché au fur et à mesure. Et...
Ouais, c'est bien, t'as eu les 100 000 abonnés récemment.
Ouais.
C'était il y a quelques semaines maintenant.
C'est ça, ouais.
Ouais. Ça fait... Il y a la petite, on voit pas, mais il y a la petite plaque YouTube des 100 000 abonnés pour les Nadorables. D'ailleurs, la première fois qu'on avait fait un podcast, je t'avais demandé c'est quoi ce truc avec les Dorables, parce que j'en vois passer beaucoup. Je crois qu'il y a Maya Dorable, il y a Nadorable que j'ai vu passer, et sûrement un gars aussi que j'avais vu.
Lucas
Dorable, ok, ouais. Et je me suis dit c'est quoi cette secte, et tu m'as expliqué que c'était juste un truc qui se faisait la mode. C'est à la mode.
Je sais pas, moi quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je sais pas si... Il y avait peut-être déjà Lucas Dorable, je crois qu'il y avait pas Maya Dorable, elle m'avait même envoyé un message.
C'est vraiment
ça. Elle m'avait même envoyé un message pour avoir des conseils montage vidéo, tu vois, à l'époque. Et en fait, maintenant, comme je suis moins connue que Maya Dorable, les gens viennent me dire « Ouais, t'as copié son pseudo et tout. »
C'est pas gentil. C'est...
Alors que non, j'étais là avant. Laissez-moi tranquille.
Allez, il n'y avait pas la blockchain avant, donc tu pouvais pas attester tu vois, sur la blockchain que c'était toi avant. Mais donc, on va te... Enfin, faut te croire, quoi. C'est sur parole, mais en tout cas, ok. Donc, c'est pas une secte, c'est juste que ça se faisait... c'était à la mode de...
Non, mais puis aussi, quand j'avais pensé à créer mon pseudo, je voulais juste un jeu de mots, un truc qui soit facile à retenir et qui j'aurais pas envie de changer, tu vois, avec le temps. Donc du coup, bah, Léna Adorable, c'était le jeu de mots le plus simple. Et c'est pas que je suis adorable, mais je pense que je suis gentille quand même.
Oh si, si. Et puis c'est vrai qu'avant, sur le YouTube, quand t'as quand même commencé YouTube en 2015.
Ouais, ouais.
Donc c'est quand même ça fait quand même pas mal d'années que tu es sur YouTube. Et puis c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de pseudo. Enfin si, il n'y avait que des pseudos. Il n'y a pas trop de gens qui s'appelaient par leur vrai prénom.
Non.
Donc je comprends que tu te sois appelé comme ça. Et c'est vrai qu'on le retient bien. Et donc ça fait comme 7 ans maintenant que t'es sur YouTube.
7 ans déjà ?
Bah 2022. Oh. Ouais. Ah. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont en 2020, tu vois, qu'on fait une...
Pour moi, ça fait genre 5 ans. Ouais.
Ouais. Non, 7 ans. Ouais. 7 ans. Et bah, justement, en préparant cette vidéo, j'ai regardé un petit peu l'évolution. Bon, déjà, il y a eu une évolution de cheveux. Il y a eu plusieurs couleurs de cheveux qui sont passés par là. Plusieurs styles. Là, c'est plutôt court. Avant, c'était plutôt long à des périodes.
T'es remonté dans les
anciens. Ah oui, je suis allé loin. Hein.
Ça doit être pépite. Hein.
J'ai vu quand tu faisais des ask.
Ah,
avant,
ouais.
On disait pas FAQ, on disait ask.
Ouais.
J'ai vu l'évolution d'accent aussi. Au fur et à mesure que tu te rapprochais de Marseille, il y avait un accent qui commençait.
Non, mais attends, là, il faut que je fasse un récap comme ça. Ça mérite un récap de cet accent parce que. Du coup, quand j'étais petite, j'ai grandi au Canada, donc j'avais vraiment l'accent québécois. Enfin,
t'arrives à le faire encore ou c'est bon, c'est perdu ?
Non, c'est perdu là. Non, désolé, tu n'auras pas exclu. Non, je m'aventure pas dans ça. Mais du coup, non, j'avais l'accent québécois. Ensuite, je suis rentrée à Toulouse. Donc là, imagine 3 secondes dans ta tête, l'accent québécois mélangé avec l'accent toulousain.
Ah, il y a encore. Ouais.
Voilà, imagine 3 secondes dans ta tête le mélange des deux accents. Bah, c'était mon accent, et puis ensuite je suis partie à Marseille. En vrai, j'ai pas trop eu l'accent marseillais, peut-être des expressions, mais voilà. Et puis maintenant à Paris, et maintenant bah, mon accent s'est perdu, et je trouve que j'ai plus d'accent. Mais du coup, j'ai vraiment eu plein d'accents différents sur YouTube. Les gens ne doivent pas comprendre.
Il y a des gens comme ça qui prennent les accents dès qu'ils vont dans un endroit.
Mais oui, moi, c'est totalement moi. Tu vois, je peux prendre l'accent facilement dans un endroit où je suis. Il n'y a aucun problème, je m'adapte.
Ok. Donc, j'ai vu tout ça. J'ai vu un petit peu l'évolution. J'ai vu des concepts qui sont restés quand même. Je pense que quand les gens pensent à l'ENA, ils pensent à la nourriture. Il y a pas mal de vidéos pour étudiants, comment bien manger quand on est étudiant, à prix étudiant. T'as partagé... En vrai, j'ai découvert pas mal de trucs avec toi. Je connaissais pas Too Good To Go, par exemple.
Ah ouais ?
Ouais, toutes ces applications qui permettent de récupérer des repas étudiants, enfin des repas à prix étudiant, c'est intéressant. Et ouais, t'as fait quand même plein de recettes. Donc, alors, je suis pas forcément le public concerné parce que je suis très monomaniaque sur la diète, tu vois. Je suis très... J'ai 3 recettes et je les refais tout le temps.
Ah,
tu vois. Comme je te disais, je m'applique pas beaucoup, mais t'as fait plein de recettes. Et donc, je pense, quand je pense à Léna, je pense à ça. Mm-hmm. Nourriture. Pas mal de conseils aussi d'habitude de vie. T'es quand même devenue la queen de la morning routine maintenant, tu vois. Je pense que les gens t'identifient aussi à ça, là, se lever à 5h du matin, les habitudes qui changent, le miracle morning qui t'a beaucoup parlé.
Ouais,
d'ailleurs, c'est quoi ton... Je sais que tu avais parlé beaucoup de ce livre, Miracle Morning. Ça a été quoi l'impact qu'il a eu sur toi, ce livre et...
Alors en fait, j'ai vécu assez mal, comme beaucoup de personnes, je pense, le confinement. J'espère qu'on n'entend pas les trains.
Non, t'inquiète, on n'entend pas.
Tu peux rapprocher juste un tout petit peu.
Je le rapproche un peu.
Vas-y, là t'es bien.
Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai assez mal vécu le premier confinement. Parce que juste, je me levais, j'étais en télétravail, en marketing digital pour mon stage. Et du coup, vraiment, juste, je me levais, je travaillais et je travaillais tard parce que marketing digital, c'est vraiment le secteur qui a explosé du coup avec le confinement. Donc au contraire de toutes les personnes qui passaient beaucoup de temps à faire du sport, à cuisiner, s'occuper quand ils pouvaient, moi, j'avais vraiment zéro temps pour moi. Et du coup, j'avais vraiment ce truc où juste je me levais le matin, j'étais déprimée parce que tout ce que je faisais de la journée, c'était juste me lever, travailler, aller me coucher, me relever le matin, travailler, me remettre devant un écran. Et c'était tout ce que je faisais. Et au bout d'un moment, ça m'a fait un peu un déclic où je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de juste me lever, de courir après ma journée et de pas avoir le temps, enfin vraiment juste de me poser 3 secondes dehors, de juste vivre, entre guillemets, tu vois. Et du coup, je me suis dit, là, c'est bon, il faut que je me reprenne en main, que je fasse quelque chose, parce que je sentais que psychologiquement, c'était dur. C'était vraiment, je faisais que travailler tout le temps, et je sentais que c'était dur et qu'il fallait que je passe un cap parce que j'en pouvais plus. Et du coup, je me suis intéressée à la Miracle Morning. C'était vraiment un truc que je voyais tout le temps des vidéos YouTube dessus depuis 3-4 ans. Et vraiment, à chaque fois que je regardais les vidéos, j'étais en mode waouh, c'est fou, mais je sais que j'en suis pas capable. Parce que de base, moi, je me couche hyper tard, je me lève hyper tard. Mes parents étaient dans la restauration, donc j'ai toujours été habituée à ces heures hyper tardives. Quand ils rentraient du travail vers 1h, 2h du matin, c'était l'heure à laquelle je me couchais. Et je me levais le plus tard possible, et voilà quoi. Et du coup, je me suis de plus en plus intéressée à ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, je dois changer le truc parce que si je continue comme ça, je sais que ça va être de pire en pire. Et j'ai essayé de mettre plein d'autres habitudes en place. Et en fait, il n'y avait jamais rien qui était assez suffisant pour que je me ressente mieux. Et du coup, quand j'ai mis la Miracle Morning en place, c'était au 3e confinement, je crois.
Okay.
Je ne sais plus, je les compte plus.
Ouais, ouais.
Voilà. Mais quand je suis revenue vivre à Marseille... Et là, ça a vraiment été un déclic pour moi où je me suis sentie vraiment, vraiment mieux. En l'espace de 2 semaines, j'ai vu une différence que j'avais pas vue avec toutes les habitudes que j'avais mises en place depuis un an. C'était vraiment cette habitude-là qui a tout changé et qui a fait que vraiment là, je me sentais vraiment un peu, c'est intense comme phrase, hein, mais prendre le pouvoir de ma vie, où vraiment je décidais de ma journée et ça donnait tout un nouveau ton à ma journée. Et donc c'est là que je l'ai mis en place. Et après, les gens me disaient « Ouais, tu vas arrêter et tout », mais en fait, je pouvais pas arrêter parce que c'était vraiment mon pilier, ce qui me faisait me sentir bien tous les jours, quoi. Et j'ai même converti mon entourage. J'ai essayé de convertir tout le monde, tel une gourou, tu vois. Mais même mon copain, du coup, il se levait quasiment en même temps que moi parce qu'il me voyait kiffer. Il était là, mais au début, il disait vraiment que j'étais folle, tu vois, que je kiffais me faire du mal, lever à 5h30 et tout. Mais en fait, je savais que c'était ça qui me faisait passer une trop bonne journée, quoi.
Et puis il avait pas trop le choix parce qu'il y avait le réveil qui sonnait de toute façon, donc...
Et voilà.
Mais donc quand tu dis que t'as testé la Miracle Morning, que tu l'as mise en place, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que ça a changé par rapport aux heures de coucher, par exemple? Avant, tu te couchais donc 1h, 2h du matin, et là tu t'es couché plus tôt et tu te levais à quelle heure exactement?
En fait, du coup, pour faire la Miracle Morning, moi je sais que j'ai à peu près besoin de 7h, 6h de sommeil. Ça dépend après, bien sûr, des gens. Mais du coup, je me couchais vers 22h30, 23h grand maximum, et je me levais à 5h30, des fois à 6h quand je le sentais pas, enfin voilà, surtout les jeudis. À chaque fois, je faisais la Miracle Morning toute la semaine, sauf le jeudi, c'était vraiment le jour d'échec à chaque fois, où j'arrivais pas à me lever. Mais non, sinon, c'était vraiment 22h30, 5h30 à peu près mon rythme. Et au début, les premières semaines, c'était hyper dur. Hein. La première semaine, pour quelqu'un qui est habitué à se coucher tard, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui se lèvent tous les matins hyper tôt pour aller travailler, etc. Moi, c'était pas du tout mon rythme. Et du coup, de me lever aussitôt et de me coucher surtout aussitôt, c'était dur. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai pris le rythme et ça allait beaucoup mieux. Mais au début, bah, je m'endormis, il était minuit et demi, 1h. Je me levais quand même à 5h parce que je voulais quand même y arriver. Et au fur et à mesure, j'ai pris le rythme, mais au début, je pense qu'il faut s'obliger. Et en fait, au bout d'un moment, t'es tellement fatigué à 22h30 que tu dors, quoi.
Ouais.
Voilà, t'es obligé.
Et quand t'arrives à ce stade-là où à 22h30, t'es fatigué naturellement, tu sais que t'es bien parce que tu vas aller dormir.
C'est ça. Et ce qui était hyper satisfaisant, c'est que vraiment, c'était. À chaque fois, moi, je me réveillais vraiment toujours dans ma vie avec un réveil. C'est-à-dire que même, je pouvais dormir jusqu'à midi. Si j'avais pas de réveil, je dormais 12 heures d'affilée, il n'y avait aucun problème. Là, à 5h30, 5h20, je me réveillais naturellement. J'avais même plus besoin de réveil, c'était incroyable.
Et je pense que ce qu'il faut préciser, c'est aussi qu'il y a une énorme différence entre se coucher à minuit et se réveiller à 5h.
C'est pas du tout
et se
même
coucher à 22h et à 5h.
Je me sentais. En fait, je pense que ça allait mieux aussi psychologiquement parce que je me sentais beaucoup plus reposée. Je passais moins de temps le soir sur les écrans où je perdais du temps inutilement et plus de temps pour moi le matin parce qu'en fait, ce qui m'énervait aussi, c'était que le soir, ok, j'avais fini ma journée, j'étais tranquille parce que j'avais tout fini. Mais j'avais pas de temps pour moi vraiment, parce que bah, le temps que je passais le soir, j'étais hyper fatiguée de ma journée, et c'était pas vraiment du temps où je profitais pleinement. Tandis que là, je me levais à 5h30, je faisais ma séance de sport, ensuite j'étais hyper réveillée, et du coup, de 5h30 jusqu'à 9h30, c'était vraiment, je faisais que ce que je voulais, et je profitais pleinement de ma matinée, en forme, tu vois. Pas comme quand tu profites le soir, où t'es fatiguée, mais t'as que ce temps-là pour profiter. Et au niveau de mon cycle de sommeil, je sentais aussi que ça allait vraiment mieux, j'étais beaucoup plus reposée. C'était pas du tout le même cycle. Et au niveau de la santé, je pense que ça a des répercussions d'avoir un bon cycle de sommeil. Du coup, ça me permettait d'avoir aussi une routine sportive vraiment tous les jours. Enfin, ça a vraiment tout changé pour moi au niveau du mental, du physique. C'était vraiment un gros plus, quoi.
En vrai, je comprends totalement. Tu disais que tu dis que c'était un grand mot, mais que tu avais repris le pouvoir sur ta vie. Mais en vrai, je comprends totalement parce que si dès le matin tu subis ton réveil, je pense que les actions elles ont une importance par rapport à ton identité. Exactement. Et si dès le matin tu subis quelque chose, c'est comme si ça te mettait dans la position de victime. Tu subis le réveil, ensuite tu subis ton travail, ensuite tu subis, je sais pas, la mauvaise humeur des gens dans le métro. Alors que quand tu te lèves et que t'as battu déjà le réveil, t'as battu le soleil aussi, si tu te réveillais encore plus tôt que le soleil, tu te dis je suis la bosse, me suis levé plus tôt que le soleil. Et ensuite, je pense que ça te met dans une meilleure démarche.
Bah, ce qui m'avait motivée, c'est que du coup aussi, quand j'ai commencé la Miracle Morning, en même temps, je lisais le livre, et il y avait une phrase, je sais plus exactement, mais qui m'avait motivée en disant que voilà, la première chose que tu fais la journée, c'est ce qui donne le ton du reste de ta journée. Et donc forcément, si tu te lèves et que tu suis ton réveil, ça donne pas un très bon ton pour le reste de ta journée. C'est pas forcément ce qui va déterminer ta journée, ça c'est aussi. La Miracle Morning, le livre, je l'ai bien aimé, mais c'est vraiment un livre à l'américaine, en mode « It's gonna change your life, amazing !» Je pense qu'ils apprennent avec des pincettes. Par exemple, dans le livre, il dit « C'est pas vrai, si vous vous couchez avec l'idée que 4 heures de sommeil ne vous suffisent pas, c'est sûr que vous allez vous réveiller fatigué. » Non, c'est prouvé scientifiquement qu'il faut dormir et que c'est important, tu vois. Mais il y a quand même des petites phrases comme ça dans le livre qui me motivent. Et moi, le fait de me dire que oui, effectivement, la première chose que je fais le matin détermine le reste de ma journée, ça m'a motivée à me dire bon, « Je prends un bon départ le matin. » Et voilà quoi, et ouais, au niveau de ça, ça a vraiment tout changé.
Mais ça, c'est vrai que, alors, le fait que 6 heures de sommeil par exemple, mais tu te couches à 22 heures et tu te réveilles à 4 heures, ne vaut pas 6 heures de sommeil de minuit à 6 heures du matin, ça a été prouvé, ouais. Parce que c'est une question de cycle de sommeil profond. Il y en a qui disent que les heures avant minuit elles comptent double, mais c'est une façon de dire que les cycles de sommeil sont plus profonds vers 22 heures, enfin avant minuit. Mais c'est vrai que par exemple, en soi, le fait que la première chose que tu fais dans la journée va donner le ton de toute la journée, n'y a pas forcément de preuve scientifique derrière pour appuyer ça, mais non. Ça marche. Enfin, c'est juste, c'est vrai en fait, c'est une question d'identité aussi que ça c'est va construire ça. De toi au cours de la journée.
C'est ça. Et il y a aussi ce sentiment quand tu te réveilles et que tu entends rien en fait. Il n'y a pas de bruit. Même si tu allais te faire une balade le matin, je trouve qu'il y a une balade à 6h du matin, mais c'est magique. Il n'y a personne, tu as la ville pour toi, surtout quand on vit dans des grandes villes. Avoir la ville pour soi, c'est quand même assez rare. Il y a toujours beaucoup de monde partout et ça, des fois on peut se sentir oppressé. Là, le matin, il n'y a personne, tu entends les oiseaux, enfin, le soleil se lève à peine, tu es vraiment dans un mood en mode le monde m'appartient. Et c'est vrai, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et je pense que bah, dans ce genre de situation, la phrase prend tout son sens.
Ok. Ouais, ça me fait penser à la phrase d'Orelsan aussi qui disait que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où lui se couche.
Exactement, j'ai adoré ce...
Ah, tu l'as vu aussi. Et... Ok, ouais, c'est... Je peux que valider ce que tu dis parce que moi, j'avais vécu une période un petit peu pareille où je m'ennuyais pendant mes vacances scolaires. Ouais. J'avais pas de projet et je me suis dit, bah, le premier objectif, c'était de me lever très tôt et... En plus, c'était l'été, donc le jour se lève très très tôt, c'est beaucoup plus simple que lorsque c'est en hiver, par exemple. Exactement. Mais pour... Je pense que toutes les personnes devraient essayer au moins une fois de se lever 5h du matin ou 6h, même si 6h ça ressemble plus à ce...
oui.
au réveil. Mais il y a quand même une différence, 5h,
ouais.
quasi, à part les personnes qui travaillent, je sais pas, dans des... les boulangers, je sais qu'ils se réveillent très tôt, mais ouais. même 3h du matin, mais peu importe les personnes, se lever à 5h du matin au moins une fois et ressentir cette sensation de se lever et d'avoir 2h devant soi où on peut faire ce qu'on veut et en plus on n'est pas fatigué. Enfin,
c'est ça. Bon, après, quand on essaie au tout début, on est fatigué. Hein.
Ouais, les premiers jours.
On est fatigué. Le premier jour encore, ça va, c'est comme si tu te lèves trop pour aller prendre un train, tu vois. Mais le deuxième, troisième, ça commence à piquer. Ouais. Et la première semaine, la deuxième semaine, c'est dur. Mais au bout de 3 semaines, on prend le rythme et après, ça va beaucoup mieux. Et c'est au bout de 3 semaines où j'ai vraiment ressenti la différence à la fois physique, mental, vraiment je me sentais vraiment mieux. Je pense que c'est au bout de 3 semaines, mais c'est vrai que j'avais un peu cette sensation en fait. Dès que mon réveil sonnait, j'étais vraiment en mode ok go, genre vraiment c'est... j'étais motivée parce que je savais que j'allais faire des trucs de fou dans la matinée, tu vois.
Mais c'est vrai que ouais, c'est exactement ça. Et c'était Casey Neistat, un américain, qui avait expliqué ça parce que lui, pas du tout le client type, tu vois, pour ça. Il disait non mais c'est quoi cette histoire, en plus lui il a des enfants, donc vraiment pas le gars à qui il faut parler de Miracle Morning. Et il avait essayé et il avait expliqué aussi, je trouve à juste titre, que par exemple lui, quand il se couchait à minuit, de 22h à minuit, c'était ses heures les moins productives. Il avait déjà couché les enfants et il regardait son téléphone ou il restait dans le canapé et puis il disait de toute façon je suis pas fatigué donc je vais attendre minuit. Et il disait que prendre ses 2 heures et aller dormir et ensuite se lever plutôt à 5h qu'à 7h, ça rendait 2 heures improductives en extrêmement productives.
Exactement.
Et...
c'est exactement ça.
Donc en fait, ça fait quand même beaucoup d'avantages qui viennent appuyer le fait que se lever très tôt, ça peut changer la vie et surtout, ça peut aider une personne à sortir d'une phase de déprime, je dirais, ou une phase de non-objectif. Parce que aussi, il y a un truc de cohérence aussi où se lever à 5h du matin, tu vas pas te lever à 5h pour regarder une série en fait.
Non.
T'as envie de faire des choses aussi. Et, c'est ça. Je sais pas, même des trucs simples comme ranger ton chez toi ou prendre du temps pour toi.
Ouais, de prendre du temps pour soi, de se lancer dans des projets, de... Bah, typiquement, moi le matin, ça me permettait de commencer une nouvelle routine sportive. Du coup, ça me permettait de me réveiller aussi le matin, de me sentir mieux, aussi d'écouter des podcasts, découvrir de nouveaux podcasts, prendre le temps de lire, enfin plein de choses dont je prenais pas forcément le temps tout au long de la semaine parce que le soir j'étais fatiguée, que j'avais la flemme, etc. Que je prenais le temps de faire le matin. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de personnes du coup qui m'ont un peu suivi dans mon délire de la Miracle Morning et qui m'ont dit, mais en fait. Ouais, on en devient accro parce que ça permet vraiment de sortir de phases où on se sent vraiment mal, de phases de dépression, parce que ça donne un renouveau en fait à son quotidien, tout simplement.
Ok. Et tu parlais de podcasts que t'écoutais. Est-ce que t'as des suggestions de podcasts à faire là, puisqu'on est en train de faire un podcast justement?
J'écoute beaucoup de podcasts qui me viennent en tête. Là, j'écoute un podcast d'une youtubeuse étudiante anglaise. Qui s'appelle Naina Florence. Je crois que le nom de son podcast, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Growing with the Flow.
Okay.
Et elle est très calme, très posée dans sa façon de parler. Et j'adore sa façon de voir les choses. Et elle fait vraiment un peu, dans tous ses podcasts, un peu un petit bilan de sa semaine. Et comment elle a évolué dans sa façon de faire, mais aussi tout ce qu'elle a pu entreprendre dans la semaine. Et elle répond à plein de sujets un peu qu'on peut se poser au quotidien. Et c'est vraiment un petit podcast Pépouze que j'aime bien.
C'est ton mot, ça, Pépouze.
Pépouze.
Donc, t'as ton podcast qui s'appelle aussi Dimanche Pépouze.
Ouais.
Et donc, ouais, bah, puisqu'on parle de ça, donc, je pense qu'on va convertir des personnes pour se lever tôt, tu vois. J'espère avec ce podcast. Alors, je me permettrai pas de dire que je suis toujours la Miracle Morning aujourd'hui, mais elle a eu un impact dans ma vie. Toi, tu te lèves toujours à cette heure-là?
Là, actuellement, avec mon déménagement et ouais. Le vlog, justement, j'ai dû l'arrêter parce que c'était pas possible. Mais justement, là, je comptais la reprendre en juin parce que mon but sur le mois de juin, c'est de bosser sur mon mémoire. Que j'ai pas trop avancé.
Oh, le mot interdit. Oh, le mot interdit. Tous voilà. Les gens avec qui je parle de mémoire en ce moment, faut pas que je le dise voilà. Trop fort.
Non, il faut que je bosse sur mon mémoire en juin. Et donc, typiquement, la Miracle Morning, je sais que ça va être un gros plus pour bosser sur mon mémoire et me dédier du temps à ça le matin, puisque c'est le. En fait, de faire le truc le plus dur de sa journée, comme bosser son mémoire, faire sa séance de sport, des choses comme ça, dès le matin, ensuite, ça te donne une impulsion pour tout le reste de la journée qui est assez incroyable, parce que tout le reste de ta journée, t'es pépouze, t'as déjà fait le plus dur, tu vois. Ça te fait rire à chaque fois.
Oui, ce mot me fait rire. Il y a des mots comme ça qui me font rire.
Mais
tu,
ouais.
Tu fais bien de préciser que c'est des phases, parce qu'en fait... Ce qui revenait souvent dans toutes les personnes qui se sont levées très tôt, je sais que Nassim Saïli même s'est levé et lui, il avait fait 3h30 chaque matin ou ouais. 4h30 chaque matin. En fait, c'est juste des phases que tu fais pour soit prendre du temps pour toi, soit lancer un projet que tu pourrais pas lancer avec la façon dont ta journée se construit en ce moment. Et, ou alors un mémoire ou un objectif comme ça, ou même un truc un peu pénible, justement. Ouais. Bah, les personnes qui aiment pas le sport, si à chaque fois à 18h elles rentrent chez elles et qu'elles sont fatiguées, se lever à 5h et commencer direct, c'est pas mal. Pour un mémoire, c'est pas mal aussi. Parce que c'est pas du tout la même chose de faire quelque chose que t'as pas envie de faire à 5h30 que à, même à 9h, par exemple, le matin. Donc t'as raison de préciser que c'est des phases et que tu peux juste. C'est un outil que t'as dans ta boîte à outils, tu peux t'en servir lorsque t'as besoin de relancer un petit peu quelque chose, un projet.
Typiquement, là, je sais que là, justement, je l'ai arrêté du coup. Avec mon déménagement, je l'ai arrêté et je sais que là j'ai besoin de reprendre parce que je sens que justement je maîtrise plus autant mes journées qu'avant, tu vois, et ça m'enlève aussi énormément d'anxiété. Vraiment, je sens que j'ai le contrôle de ma journée, que je suis déjà en avance sur ma journée, et ouais, ça m'enlève aussi une dose d'anxiété où je sais que quand je fais pas la Miracle Morning, je suis pas bien, je sens que je cours après le temps, tu vois.
T'es pas à ton max,
ouais, exactement.
Ok, ah, c'est intéressant, et je pense que si ça se trouve. Bah, en vrai, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Si ça se trouve, on ne s'en rend pas compte actuellement, mais on n'est pas à notre max et on pourrait l'être avec, en se relançant dans un objectif comme ça.
Il faut tester pour essayer, okay. Pour le savoir.
Ouais, t'es en train de me reconvertir à un truc que j'ai testé. Et ok, ouais, mais c'est vrai que en fait, le seul point négatif qui revient avec ça, c'était tout le temps la vie sociale. Parce que se coucher à 22h, ça veut dire rentrer chez soi à 21h ou le temps de décompresser de la journée et de se mettre en position de dormir. C'est le seul truc qui est négatif qui revenait tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pas tenable sur le long terme, d'où l'intérêt de le faire en période.
Oui, mais après aussi, t'es pas obligé de te lever à 5h30, tu vois, tous les matins. En étant étudiante à côté, j'avais quand même une vie sociale. Après, le fait d'avoir commencé la Miracle Morning pendant le confinement, forcément, ça a aidé parce que du coup, tu pouvais pas sortir et tout. Mais je l'ai continué ensuite après le confinement. Et en fait, de te dire, la Miracle Morning, ouais, je peux pas la faire tout au long de la semaine parce que j'ai prévu d'aller boire des verres avec des potes et je sais que je vais pas être là en mode 22h30, il faut que je rentre, les gars, Miracle Morning devant. Tu vois? Mais du coup, je me disais, écoute, même si cette semaine j'ai plein de trucs de prévu, je me fais la Miracle Morning un matin, deux matins ou trois matins dans la semaine, c'est déjà mieux qu'un, tu vois? C'est comme quand. Le matin, tu as envie de faire ta séance de sport, tu n'as pas le temps, donc tu ne la fais pas parce que ta séance, elle dure une heure. En vrai, si tu fais 10 minutes, c'est mieux que rien. Et la Miracle Morning, c'est pareil. Donc si tu as plein de trucs de prévu dans la semaine, si tu la fais déjà un matin ou deux, c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus être trop sévère envers soi-même en mode « je fais la Miracle Morning pendant un mois, tous les matins ». Non, déjà, ça ne va pas marcher. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc où plus tu te rends flexible et aussi d'être bienveillant envers soi-même et de se dire non mais j'ai Miracle Morning, c'est important, mais d'avoir aussi une vie sociale, c'est d'autant plus important. Donc essayer de trouver cet équilibre, et si tu l'as fait déjà en jour, deux jours dans la semaine, c'est déjà très bien.
Ok, ouais, c'est un boost, c'est un peu le champignon rouge dans Mario Kart en fait, quand tu l'as tu vas plus vite mais t'es pas obligé de l'utiliser tout le temps, ok?
Exactement, tu sais la fusée sinon c'est pas...
Ouais, mais ça c'est quand t'es dernier, tu vois, c'est un peu la loose quand... Ouais. Tu sais que quand t'as la fusée c'est que t'es entre 8e et 12e, donc
mais c'est ça, quand ça va pas bien dans ta vie tu prends ta
fusée. Ah t'as raison, ok, c'est la fusée dans Mario Kart. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui la Miracle Morning du coup ça a changé ta vie?
Bah, je sais pas si
c'est pour le titre du podcast en fait. Si tu dis oui, après je peux mettre Lena Dorable, la Miracle Morning a changé ma vie. Oui. C'est bon, j'ai mon titre. Yes. Il y avait aussi une question que je voulais te poser sur ton organisation. Parce que en effet, tu es pour moi la personne qui représente la Miracle Morning, mais tu es aussi une queen de l'organisation.
Quel honneur.
C'est vrai, je trouve. En fait, je dis ça parce que j'ai vu une de tes stories sur Instagram l'autre jour et t'avais toute ta semaine de planifier et franchement, je trouvais ça très, très carré. T'avais des blocs et tout, réel Instagram, ton sport aussi parce que tu fais du sport et la fin de tes études. Enfin bref, est-ce que c'est important pour toi l'organisation ou est-ce que c'est quelque chose qui t'aide pour ton anxiété par exemple?
Alors je dirais que l'organisation pour moi c'est plus un moyen de lutter contre la flemme en fait. J'ai juste pas envie de me réveiller tu vois dans 5 ans et de me dire « Ah j'aurais pu faire tout ça et je l'ai pas fait à cause de quoi ? À cause de la flemme ?» Non genre c'est pas possible, dans ma tête c'est impossible. Et ouais c'est plus un moyen de lutter contre la flemme et si je sais que voilà j'ai tout ça à faire mais ça va vraiment me motiver, j'ai pas envie de me dire que la flemme a pris le pas sur mes ambitions, sur mes projets, sur mes rêves tu vois et du coup c'est pour ça que pour moi l'organisation c'est vraiment un pilier au quotidien en vue d'atteindre mes objectifs, mes ambitions, c'est vraiment un outil et que j'essaie d'optimiser au mieux, c'est pour ça que je me fais des petits emplois du temps et tout parce que ça me permet vraiment d'optimiser mes journées, de faire encore plus de choses et du coup d'être encore plus fière et d'avancer vers mes objectifs. Mais après c'est pas tant un moyen de lutter contre l'anxiété parce que je touche du bois, mais j'ai pas trop d'anxiété, c'est plus lutter contre la flemme. Et pas me réveiller ouais, dans 5 ans et me dire je suis déçue quoi.
Ok, donc c'est plutôt ouais, en gros si toi tu organises pas ton temps tu sens que t'as ta partie flemmarde qui reprend le dessus.
C'est ça.
Et donc à chaque fois que tu organises ton temps c'est tu gagnes la guerre contre la flemme.
Exactement. Okay.
Mais je crois que tu disais ça en off là quand on en parlait ouais. Un petit peu avant, tu disais que c'était vraiment une guerre contre la flemme.
C'est ça.
Et je trouve ça pas mal parce que bah, souvent je trouve ça bien de voir les choses comme soit c'est notre allié, soit c'est notre ennemi, tu vois, et d'être un peu même binaire dans ce raisonnement et de se dire bon bah la flemme c'est mon ennemi parce que c'est moi ça. J'ai mes ambitions etc. Donc
faut toujours trouver un équilibre en mode il y a les moments où t'as la flemme et il y a aussi les moments où t'as besoin de te poser, de prendre du temps pour toi et vraiment de penser à rien et de pas travailler et tout, et c'est ces moments-là aussi qui te permettent de récupérer et d'être d'autant plus productif après. Mais il faut aussi arrêter de se donner l'excuse de la flemme. Et moi, ça m'énerve un peu, tu vois, quand je vois mes potes et qu'ils me disent « Ah non, aujourd'hui, j'ai pas le temps. » Alors que je sais très bien qu'ils ont le temps, parce que tout le monde a le temps et que tout le monde peut s'organiser et faire au mieux. Et que c'est plus souvent la flemme qui prend le pas. Et je trouve ça dommage que la flemme prenne le pas sur des ambitions, sur des moments de vie, sur des... Parce qu'au final, la flemme, au bout de ta vie, tu t'en rappelles pas de ces moments-là, quoi.
Ouais, c'est ça, tu pourras pas... tenir ses enfants sur la jambe et te dire mamie elle aurait pu avoir une meilleure vie mais mamie
la flemme. ça le fait pas du tout.
Mamie t'as des histoires à raconter?
Non j'avais la flemme.
Mais j'ai bien aimé la série, à mon époque il y avait une série qui s'appelait ça.
Exactement.
Franchement j'ai adoré la
cette
saison.
Cette série, non mais c'est trop démodé.
Ouais, ça fait pas, ouais j'avoue ça fait pas très bien pour...
Game of 3
les histoires pour les petits-enfants elles seront pas top, t'as raison. Mais ça c'est une question que je me posais aussi, est-ce qu'il y a des personnes qui sont juste naturellement plus... plus ambitieuses que d'autres, ou est-ce que en fait c'est juste parfois le destin de quelqu'un où il lui arrive un truc et se dit bon bah j'ai pas envie de rester à je sais pas, j'ai envie de faire des choses dans ma vie, et il prend un déclic tu vois, comme un accident parfois de la route ou un truc où tu passes près de la mort, ou alors tu juste t'as une rupture, t'as un truc dans ta vie qui t'affecte, tu te dis faut que je me trouve des trucs aussi à faire dans ma vie, ou faut pas que je dépende d'une personne. C'est un peu une question que je me pose.
C'est marrant que tu parles de ça.
C'est pas prévu hein.
Parce que non, alors je saurais pas répondre à ta question. Je pense que il y a du oui, il y a du non. Je sais que moi, j'ai toujours grandi dans une optique où il fallait que je sois hyper indépendante et que je me débrouille en fait toute seule. Vraiment dans une optique de me débrouiller seule, et que je savais que je pouvais pas compter sur mes parents pour me payer mes études, qu'il fallait vraiment que je sache me débrouiller seule. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi finalement donné de l'ambition. Parce qu'en fait, si j'avais pas d'ambition, bah, j'avais pas ce que je voulais dans la vie. Et du coup, c'était un peu le moyen pour moi de juste vivre la vie que je voulais. Donc il y a ce premier point. Et il y a aussi, quand je suis rentrée en prépa, j'ai eu un accident de voiture. Où vraiment assez grave, où vraiment j'étais pas censée survivre à cet accident de voiture. et où j'étais avec ma mère d'ailleurs. Et du coup, je pense que ça m'a d'autant plus poussée dans mes projets à me dire, mais en fait, là, ça aurait pu se finir. Qu'est-ce que j'aurais fait là, quoi, enfin, si ça s'était fini maintenant. Et je pense que ça m'a un peu donné cette optique aussi de me dire, faut que je me donne à fond dans tout ce que j'entreprends. Parce qu'au final, au bout du compte, c'est ce dont on se rappelle le plus, quoi.
Ok, c'était
quand ça... C'est français, ma phrase, ça ?
J'ai compris l'idée. C'était quand cet accident ?
C'était juste ma première année d'études, première
donc
année
quoi, t'avais 18, 19...
Ouais, c'est ça. C'est
ok, ça. Et il y a eu un avant-après ou...
Je pense pas qu'il y ait eu vraiment un avant-après. Je pense que finalement, ce qui a le plus compté dans le fait que j'ai été vraiment ambitieuse dès le début, depuis hyper jeune, je pense que je suis hyper ambitieuse et que j'essaie aussi d'avoir un entourage ambitieux qui me pousse vers le haut et de faire un peu le tri de mes relations. Mais je pense que ce qui m'a le plus poussée à avoir de l'ambition, c'est vraiment le fait de me dire il faut que je me débrouille seule. Et cette envie aussi d'être fière, tu vois, de moi, de me dire tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est que grâce à moi et personne d'autre. Je pense que c'est ça qui a le plus eu un impact, en fait, sur ma vie. Mais je pense que cet accident de voiture, ça a d'autant plus renforcé, ou ça a peut-être fait un pic de rappel au moment de ma vie, où j'avais peut-être un petit peu la flemme, tu vois. Et je me dis, bah, tout arrive pour une raison, et c'est peut-être arrivé à ce moment-là pour me dire, eh oh, tu te bouges, maman, tu vois. Okay.
Ah, c'est marrant, je savais pas que t'étais à la base une flemmarde, tu vois.
C'est vrai ?
Parce que bah, c'est un peu comme toutes les personnes qui maintenant sont organisées et font des choses, on se dit, bon, bah, toute leur vie, elles ont été comme ça. Sauf qu'en fait, parfois, les personnes les plus productives d'aujourd'hui, c'est les personnes qui étaient les plus fainéantes hier, tu vois.
Après, je pense que tout le monde dans mon entourage te dira que j'ai toujours été hyper organisée et tout, mais moi j'ai toujours ce
bah
truc.
Bah vas-y, on les appelle.
Allô ?
Bonjour, c'est pour un tournage.
Mais je pense que tout le monde te dira que j'ai toujours été assez organisée et voilà, mais enfin comme tout le monde, enfin tout le monde a la flemme, je pense, tu vois.
Bah, y a quand même, je trouve qu'au collège, il y avait déjà des gens où... Bah, surtout les filles, hein. Au collège, franchement, je voyais une diff, j'étais là... Moi, je me rappelle une fille qui s'appelait Léonie dans ma classe. Elle, c'était un robot, quoi. Elle était... Mais d'ailleurs, c'est... Bah, je pensais à elle, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnes déjà organisées dans ma classe, alors que moi, je ne l'étais pas du tout à ce moment-là. Mais d'ailleurs, Léonie, quand je lui ai reparlé il y a quelques années...
Léonie
En fait, c'était, pour la petite histoire, c'était la fille la plus organisée de la classe, la moins bavarde, l'élève parfaite, tu vois, entre guillemets. Et moi, j'étais l'inverse. J'étais l'élément perturbateur. Et ma prof de français, Madame Boivin, on l'embrasse aussi. C'était la première fois qu'elle avait affaire à un énergumène comme moi, tu vois. Et à chaque fois, elle me changeait de partenaire de classe parce que je bavardais trop.
Un jour, tu t'es retrouvé à côté de Léonie.
Voilà. Et donc, à la fin, le boss final, pour moi, c'était Léonie. Ouais. Elle a dit, bon, bah, je te mets à côté de Léonie, là, tu vois, c'était...
Ah oui.
Finito pour moi, fini. Ouais. Et en fait, si, j'ai fait parler Léonie, on discutait, je l'ai changé en quelques semaines, tu vois.
Ah ouais. Ah non, mais toi, t'étais le mal incarné, en fait, un démon.
Après, elle était plus contente parce qu'elle était plus sociable, après, tu vois. Ouais. Ça, c'est mélange, tu vois. Je lui ai pris un petit peu de temps de concentration, mais je lui ai donné l'envie de discuter plus avec les gens, donc voilà. Mais je lui ai reparlé il y a quelques années, Léonie, et j'ai appris que petite, elle avait vraiment un environnement pas facile dans son cadre familial, tu vois. Mm-hmm. Et je crois que ses parents... voilà, faisait un métier où il comptait un petit peu tout le temps, et puis et elle a vite compris, très vite compris qu'il fallait qu'elle soit la plus indépendante c'est possible, et donc ça passait par l'école, tu vois. Au début, quand t'es au collège ou au lycée, tu te dis c'est mes notes qui vont déterminer ce que je vais faire ensuite, donc elle était très carrée, je comprends pourquoi maintenant. Et toi, tu me disais que t'étais indépendante, que maintenant t'es indépendante. Je me disais, si ça se trouve, il y a eu un rapport aussi avec le métier de tes parents. Tu me disais qu'ils étaient restaurateurs. Bah, quand t'es restaurateur, il n'y a pas de salaire qui tombe chaque mois. Si tu travailles pas, il n'y a pas de salaire.
Exactement.
Alors que, je sais pas, il y a beaucoup de parents fonctionnaires aussi, comme les miens, où en fait, je sais pas, tu te dis, le salaire est le même chaque mois. Ouais. Donc, il n'y a peut-être pas cette faim que tu peux avoir quand t'as des parents qui font un métier où il n'y a pas de salaire assuré chaque mois. Peut-être.
Non, je pense que j'ai un peu la même histoire que Léonie. Je pense que je pourrais être copine avec toi, Léonie. Mais non, c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là où du coup, je savais vraiment qu'il fallait absolument que je me débrouille toute seule, enfin que j'avais pas le choix, tu vois. Donc quand t'as pas le choix, bah tu fais, tout simplement.
Ok. Et est-ce que maintenant, j'en profite maintenant que j'ai une fille sur le podcast pour te poser la question, parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où j'essaie de donner des conseils pour les garçons, parce que je me rappelle très bien de quand j'étais... dans la peau d'un garçon de 18 ans un petit peu banal qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui a pas trop d'ambition. J'ai essayé de me remettre dans la peau de ce gars-là de 18 ans qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. Est-ce que toi tu donnerais des conseils si tu devais revoir Léna qui a 18 ans et qui pourrait des conseils qui pourraient s'appliquer à une fille qui vient de finir son lycée par exemple et qui est un peu perdue, pas très indépendante encore, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ton toi d'il y a 5 ans maintenant?
C'est une bonne question. Hein. Non, je dirais que ce que je trouve qui est important et que je pense que je l'ai eu parce que c'est un peu la mentalité quand j'ai grandi au Canada, c'est un peu ça, c'est en fait de vraiment garder toi tes objectifs, tes envies en tête et de pas prêter attention à ce que vont penser les autres parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours jugé, tu seras toujours critiqué. Que tu veuilles faire secrétaire dans un cabinet médical ou président ou youtubeur, dans tous les cas, tu seras critiqué pour tout et n'importe quoi. Et je trouve ça dommage de grandir avec des rêves qui se sont bloqués parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Au final, au bout du compte, quand chacun rentre chez soi le soir, personne n'a rien à faire. Tout le monde pense qu'à sa propre personne. Et donc, je trouve ça vraiment dommage de se bloquer dans ses ambitions, dans ses rêves à cause de ça. Et donc, je dirais que justement, si on sent qu'on a du potentiel, il faut juste croire en soi parce que personne ne le fera à sa place, malheureusement. Il faut croire en soi et il faut foncer vers ses rêves, peu importe ce que les autres vont penser. Et de toute façon, ça fonctionnera parce que quand il y a passion, persévérance et patience, les 3 P, ça ne peut que marcher.
Ok. Et tu disais quand tu sens que tu as du potentiel, mais est-ce que toi, tu as senti que tu as du potentiel ou tu as eu un événement dans ta vie qui t'a fait comprendre que tu avais du potentiel?
Quand tu sens que tu as du potentiel, c'est plus dans l'idée, tu vois, où tu, par exemple, dans tes études, bêtement, mais si tu es fort en langue et que tu te tournes vers des études tournées vers les langues, que tu as tes notes qui suivent, tu sens que tu as un petit potentiel parce que tu as peut-être plus de facilité et que du coup, tu peux aller encore un peu plus loin, tu vois.
Mais c'est pas le cas de tout le monde.
De quoi?
C'est pas le cas de tout le monde d'avoir des bonnes notes.
Exactement, mais dans certaines matières, on a toujours un point fort, tu vois, que ce soit en sport, en maths, en français, en langue, il y a toujours un truc où on se sent plus à l'aise. Et si c'est pas justement dans les cours, ça peut être dans des projets à côté. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir beaucoup de projets, de s'investir dans plein de choses à côté de ses études et pas d'avoir que ses études. Enfin, moi, je sais que je fais beaucoup de vidéos sur les études, mais justement, tous les trucs qui sont à côté de nos études nous nourrissent. Enfin, quand je suis rentrée en école de commerce, ça m'a fait un peu bizarre parce que du coup, j'étais en mode prépa pendant 2 ans, en mode cours, réviser, cours, tout le temps, apprendre, voilà. Et ensuite, je suis rentrée en école de commerce et on m'a dit, mais en fait, ouais, tu vas avoir des cours, mais tu dois surtout avoir des projets à côté. Et au début, je comprenais pas trop, je me disais, mais enfin, pourquoi? Enfin, on est là pour étudier, apprendre, mais en fait non, on apprend en faisant. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir plein de projets à côté, de t'investir dans plein de choses qui vont aussi nourrir finalement ton projet professionnel, même si au départ t'as l'impression que c'est pas trop lié. Donc si même il y a des choses dans lesquelles on se sent pas à l'aise en cours, il y a peut-être des projets à côté dans lesquels on s'investit, où on est finalement hyper à l'aise, et qui vont nous guider pour notre projet professionnel futur, tu vois.
Ok, donc t'as déjà dans ton école, ils t'incitaient à avoir des projets en même temps que tes
pas,
études.
Pas au lycée, mais ouais, en école de commerce, il y avait vachement ce côté s'investir dans des assos. Tu peux lancer ton projet entrepreneurial dans une business nursery, ça s'appelle.
Ok.
Voilà, t'as plein de possibilités pour justement lancer tes propres projets, t'investir dans des projets existants. Et ça, c'est très cool et c'est surtout hyper bien vu des recruteurs, tu vois, parce que finalement, on arrive sur le marché du travail avec quasiment tous le même diplôme. Et ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais à côté de tes études aussi. Et ça peut être un gros plus d'avoir des projets à côté. Et ça te permet aussi, toi, d'apprendre sur le tas, de juste mettre en pratique ce que tu as vu en cours. Enfin, il y a vraiment un gros plus à s'investir dans des projets à côté de ses études, je trouve.
Ah bah clairement, hein, mais surtout dans notre génération, où avant, avoir un diplôme, c'était promesse d'emploi quasiment, c'était emploi quasiment assuré. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien qu'ils te transmettent ce message-là à ton école, parce que à la fac de droit, je pense que les gens qui ont fait une fac de droit ou une fac, les cours, c'est des cours magistraux, c'est des cours où tu parles à 300, 400, 500 personnes. Il n'y a pas forcément cette envie d'individualiser le message, c'est plutôt on est là pour apprendre. Et c'est vrai que c'est un message qui est hyper important à faire passer. Même pour la créativité, c'est un truc qui est... C'est quand même une compétence, je trouve, qui est assez peu... qu'on développe assez peu à la fac. Justement, quand on est dans cet état d'esprit de... aller en cours, apprendre, ouais. aller en cours, apprendre, parce que c'est, on nous donne des infos, on les apprend, on donne des infos, on les apprend, alors que la créativité, c'est parfois trouver des solutions quand, quand on a un problème et...
C'est vraiment, c'est d'avoir des projets à côté, ça te permet de passer à l'action, d'agir et surtout de savoir t'adapter. Et ça, dans toutes les entreprises, dans tous les métiers, c'est obligatoire, tu vois, parce que t'es obligé de t'adapter aux solutions, aux imprévus et de trouver des solutions et voilà quoi.
Et dès que tu lances un projet entrepreneurial, il y a plein de problèmes qui... et c'est à ce moment-là qu'intervient la créativité ou voilà. aussi ben, la persévérance que la passion est mise à rude épreuve aussi. Donc les fameux 3P, je connaissais pas, mais oui, c'est des mots qui sont importants.
C'est un concept qu'on a lancé avec...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Marie, on
parlait... Ah oui, c'est pas un concept...
Non, mais si vous voulez, on peut faire un cours dessus. Une formation okay. sur les 3P.
Et ben, ouais, tu parlais de Marie, c'est... et tu me disais en off que ça faisait quelques temps que t'avais des youtubeurs, des youtubeuses aussi que tu suivais depuis pas mal de temps qui font partie maintenant de ton cercle. C'est... Ouais, ça a mis combien de temps avant ton projet YouTube? Tu t'es lancé en 2015. Combien de temps ça t'a pris avant que... vraiment ça soit une vraie activité pour toi et que tu doives créer ton entreprise, etc.
Alors je dirais que quand je suis rentrée en école de commerce, donc 4 ans après que j'ai lancé ma chaîne YouTube à peu près, ça commençait à être un job étudiant sympa pour moi. Vraiment mon job étudiant de rêve. Et du coup ça me faisait un petit revenu, mais YouTube par mois, qui me permettait de payer une partie de mon loyer ou voilà. Et puis après, ça s'est vraiment accéléré avec, je pense, comme beaucoup de monde, le confinement. Tous les métiers dans le digital, ça a vraiment pris une accélération pendant le confinement. Et donc là, ça a commencé à être un revenu un peu plus important. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir plus de collaborations. Et je pense que depuis que j'ai passé aussi la barre des 100K, ça a aussi fait qu'il y a plus de marques qui se sont peut-être plus intéressées à mon profil. Et comme j'ai un profil assez type... à la fois étudiante, mais aussi créatrice de contenu, ça plaît à pas mal de marques. Donc c'est à partir du confinement où ça a un peu commencé à mieux marcher, je dirais.
Donc ça a mis quand même 4-5 ans avant de...
Ah oui, ouais.
Ouais, donc ça, c'est, maintenant, c'est devenu une activité à part entière. C'est limite un métier que...
C'est ça.
C'est mais devenu ton métier,
ce
mais
disais,
ça met du temps.
C'est passion, patience, persévérance.
C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, et donc maintenant on arrive à la fin de tes études, donc tu vas finir ces études fin 2022-2023 parce que tu me disais que tu avais un stage, plus le mémoire, enfin la classique, le doublé classique pour finir ses études, okay. Stage plus mémoire, et tu arrives bientôt à la fin de tes études. Est-ce que tu sais déjà si tu vas aller à fond vers les réseaux sociaux? Oula, il y a beaucoup de questionnements, Guy. Ok, est-ce que, je finis la question mais tu vas me dire, est-ce que tu sais déjà maintenant si tu vas directement te lancer à fond dans ta carrière sur les réseaux sociaux ou si tu vas essayer de faire un travail que tu vas pouvoir trouver avec tes études et donc à temps partiel continuer ton activité sur les réseaux.
Salut. Non, je sais pas. En vrai, justement, j'ai du coup appris là durant ces 3 dernières années durant mes études que ce qui était important, c'était de se laisser des portes ouvertes et aussi, on peut voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous et savoir les saisir. Et donc je me dis qu'une fois que j'aurai terminé mon stage, ben, je ne sais pas si je vais continuer dans la boîte dans laquelle j'aurai fait mon stage par exemple. Est-ce que je vais vouloir plutôt rester créatrice de contenu, mais comme du coup tout mon contenu est assez orienté étudiant, est-ce que ma communauté va se retrouver dans mon contenu? Mais finalement ma communauté au bout d'un moment elle aussi ne sera plus étudiante. Enfin bref, c'est un peu toutes les questions que je me pose. Et puis il y a aussi ce truc où justement moi j'ai toujours adoré l'école. J'adore transmettre et j'aimerais trop donner des cours en montage vidéo, donner des cours d'influence, peut-être à des entreprises ou même à des écoles, tu vois. Donc franchement, j'ai un peu ce truc où j'aime faire plein de choses à la fois, un peu... C'est quoi, c'est le syndrome de Léonard de Vinci?
Léonard de Vinci, ouais.
Voilà.
Paolo, si tu passes par là, c'est lui qui m'a introduit à ce concept.
Ouais, ouais, mais justement, c'est quand j'ai écouté l'épisode que je l'ai découvert. Et non, je pense que je me laisse juste des portes ouvertes et je verrai en fonction, mais je me ferme pas de porte et je me mets pas de pression avec ça. Je pense que durant 5 ans, pendant mes études, je me suis déjà mise assez de pression, donc maintenant, on verra.
Ok. Ok, ben bah, oui, c'est vrai que quand t'es plutôt quelqu'un de scolaire, bah tu as aussi envie de rester un petit peu dans ce milieu-là et ça te fait peur même de quitter ce milieu, parce que c'est vrai que le milieu scolaire et le milieu professionnel du côté de l'entrepreneuriat, c'est complètement différent. Donc,
c'est ça. Après, du coup, là, ça fait qu'avec ma chaîne YouTube, j'ai toujours baigné dans les deux. Donc, je dirais pas que j'ai peur, mais juste, je sais pas si, justement, avoir qu'un seul côté, ça va pas me rendre moins épanouie, tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir plein de choses dans mon quotidien qui font que je serai vraiment stimulée.
Bah, y a plutôt les gens qui sont... Je les appelle les jongleurs, c'est les gens qui ont besoin d'avoir plusieurs projets et jongler entre tout ça, tu vois, pour se sentir bien. Ou on pourrait dire, je sais pas, chef d'orchestre, parce qu'ils ont besoin de gérer un groupe, tu vois, de projets. Il y a les gens un peu plus obsessionnels qui ont besoin juste d'un projet, d'une passion et qui vont foncer là-dessus. Tu serais plutôt quelqu'un qui a besoin d'avoir plusieurs projets.
Ouais, je pense.
Ok. Tu viens comme ça. Bon, bah écoute, bah, je te souhaite de continuer ces petites réflexions. Mais enfin, c'est quand même important, tu vois. C'est quand même, j'imagine, beaucoup de réflexions de savoir si on veut partir à fond dans ces réseaux. Une fois qu'on a réussi à vivre de son activité ou alors jongler un petit peu avec tout ça.
Je suis d'ailleurs curieuse, s'il y a des personnes qui écoutent cet épisode, d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je me mettais à fond créatrice de contenu ou pas? Mais ouais, je suis curieuse aussi d'avoir les retours de ma communauté, parce que c'est vrai que ma communauté m'a toujours vu faire du contenu orienté étudiant. Et est-ce que du coup, elles aimeraient continuer de voir mes vidéos d'ici quelques années ou pas? Enfin, tu vois, c'est plein de questions que je me pose. Et puis mon podcast aussi, je sais pas.
Bah, pour m'être posé exactement la même question, ouais. Tu disais qu'on était un peu identique en termes de contenu. Je pense que tu peux te permettre de parler d'études même quand tu n'es plus étudiante, parce que dans quelques années, tu auras toujours l'état d'esprit d'une étudiante. Enfin, tu n'auras pas oublié toutes ces années d'études. Donc, tu peux te permettre, même si, imaginons, tu vas à fond sur tes réseaux et que tu ne suis pas dans l'entreprise où tu as fait ton stage, par exemple, tu pourrais toujours te permettre de faire du contenu étudiant.
Ouais.
Et en même temps, commence à parler de ta vie d'adulte, comme tu l'as fait là, quand tu t'es installé ici à Paris. Tu vois, pour moi, c'est ça la vie d'adulte, c'est son appartement. C'était un contenu purement jeune adulte que tu as créé.
C'est un grand mot adultant, parce que moi, je me sens pas trop adulte.
Tu te sens pas adulte aujourd'hui?
Ah non, moi, je me sens très... En vrai, là, on est posé, podcast et tout, mais moi, je suis très enfant dans ma tête, tu vois. Je prends toujours une voix de bébé, je suis toujours... Genre, je deviens une adulte petit à petit, mais je dirais pas que je suis une adulte encore.
Et c'est quoi un adulte alors pour toi?
Trop sérieux.
C'est quoi le cap à passer
Je sais pas. Je sais pas si je le passerai un jour.
Ok. Bah en vrai, pour moi, être un adulte, c'est prendre ses responsabilités, tu les as prises.
Oui.
C'est
en effet. J'ai l'impression que tu vois, avec le mot d'adulte, on a juste le mot problème et pas le mot rêve, ambition, tu vois.
Ah. C'est vrai que quand j'entends mes parents parler avec d'autres amis, il n'y a pas le mot rêve qui apparaît dans les conversations.
Et je trouve ça trop triste, parce que pour moi, il faut pouvoir rêver à tout âge. J'ai envie d'avoir des rêves même quand j'aurai 60, 80 ans, 100 ans, tu vois.
C'est vrai, mais ça c'est plutôt c'est pas le pessimisme, mais c'est un mot que j'avais beaucoup retrouvé dans le monde adulte, en effet, quand je travaillais, quand je faisais des stages. Mais c'était le côté tout est banal, en fait. Enfin, c'est tout est standardisé, il n'y a plus rien qui les étonne, en fait.
Moi, je veux pas ça. Moi, je veux pouvoir m'étonner tout le temps.
Ouais. Et ben, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'adultes utiliser ces mots-là, rêve, objectif, ambition, peut-être parce qu'ils ont abandonné eux-mêmes les leurs, ou parce qu'ils disent que c'est pas possible.
Mais c'est vrai que même tu vois, par exemple, en repas de famille, tout bêtement, une fois, j'avais lancé le sujet en mode, bah, du coup, autour de la table, on était une dizaine, bah, c'est quoi vos rêves? Et personne ne savait me répondre. Je me suis dit, mais comment ça? Enfin, vous n'avez pas une seule idée de quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, et en fait, tout le monde s'était ancré dans un quotidien et ils n'arrivaient pas à me dire, bah, non, moi, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et je trouve ça trop triste. Enfin, justement, les rêves, c'est ce qui te pousse à te lever le matin, tu vois.
C'est aussi, je pense que des trucs simples comme en fait ils n'avaient pas accès à d'autres contenus que la télé par exemple. Et c'est vrai qu'avant il y avait beaucoup cette idée d'avoir une élite. Même à la télé c'était toujours les mêmes personnes qui parlaient. Il y avait des personnes à l'entrée, tu vois, c'était toujours les personnes à la télé, c'était toujours les mêmes personnes. On peut avoir l'impression que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais maintenant il y a tous les nouveaux réseaux sociaux. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de contenu maintenant qui pousse les personnes à devenir plus indépendantes, à des livres aussi comme Miracle Morning, tu vois, ou d'autres contenus. Et je pense qu'ils n'avaient pas accès à ça, en fait, les parents. Et c'est pour ça que même il y a des gens maintenant, des boomers, comme on dit, tu vois, qui ont 40, 50, 60 ans, qui regardent des vidéos youtubeurs et qui font « Ah, mais c'est trop bien ce qu'il dit !»
Ouais, je pense que t'as raison, c'est ça.
Parce qu'ils n'ont pas eu accès à ça, en fait. Eux, c'était tout le temps, ils avaient tous, eux, les mêmes informations. Et je pense que les seuls moyens qu'ils avaient de se dire, de rentrer dans cet état d'esprit de « je vais me créer mes opportunités », c'est ceux qui avaient des parents entrepreneurs, par exemple, qui avaient cet état d'esprit. Mais tu ne pouvais pas l'avoir avec la télé. Il n'y a pas beaucoup de contenu à la télé qui poussait les gens à faire des choses. C'était plutôt rendre les gens consommateurs et pas entrepreneurs, tu vois. Le but de la télé, je pense, avant, c'était plutôt de créer des consommateurs. C'était le début de la société de consommation. Et maintenant, je trouve que même s'il y a toujours... On reproche parfois aux youtubeurs et surtout aux influenceurs, tu vois, d'être des influenceurs qui font la promotion de la consommation tout le temps. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contenu quand même de youtubeurs qui poussent à la réflexion et aussi au développement de soi, tu vois.
Exactement, t'as tout dit. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis tellement accro à YouTube, parce qu'à chaque fois que je vais sur la plateforme, j'ai l'impression de toujours un peu réfléchir, évoluer, voir que d'autres choses sont possibles. Et ça te donne cette ambition, cette envie de rêver, tu vois, que forcément tu retrouves pas dans la télé, peut-être.
Mais il y a un décalage de fou entre ce que les parents imaginent que nous on regarde sur les réseaux, parce qu'ils se disent, mais ils regardent des gamins qui jouent aux jeux vidéo, ils regardent... En fait, ils se rendent pas compte que parfois, oui, quand t'as 14-15 ans, tu regardais des jeux vidéo, enfin moi c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, ils se disaient, ouais, ils regardent que des conneries sur nous, on regardait C'est pas sorcier à mon âge, tu vois, donc oui, initialement, on peut se dire, ouais, bah, il est en train de déconner, YouTube c'est en train de l'abrutir, sauf que ce qui s'est passé, c'est que parfois, entre deux vidéos, jeux vidéo, ils vont tomber sur une vidéo qui a été suggérée, où ils vont apprendre des choses, et ensuite ils vont rentrer dans cet état d'esprit de, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de prendre le pouvoir de mon quotidien, et boum, t'as un enfant qui est transformé comme ça à 17 ans, et parfois, même les parents, parfois, ils écoutaient mes vidéos en fond, et ils se disaient, mais attends, mais c'est bien ce que t'écoutes, et ils s'en rendaient pas compte, en fait, qu'il y avait autant de contenu bien sur, sur YouTube ou sur les autres réseaux, tu vois.
Clairement.
Donc, ouais, ben, c'est aussi un avantage de notre génération. Et c'est surtout sûrement pour ça que tu n'entendais pas souvent le mot rêve, objectif, dans tes conversations. Et je ne les entends pas non plus. Et je pense que
peut-être
c'est le cas
que
pour beaucoup de personnes.
On est la nouvelle génération d'adultes qui vont enfin avoir des rêves et des ambitions.
Je trouve qu'on reproche beaucoup de choses à notre génération. Mais je trouve qu'on fait beaucoup de choses bien aussi.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a vraiment cette image des étudiants qui ont la flemme et qui font que consommer et qui regardent n'importe quoi sur Internet. Alors que, justement, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont faites, tellement de personnes qui se lancent dans des projets, bah, que ce soit pour protéger la planète, pour lutter contre des discriminations. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui sont hyper investis et qui sont pas du tout des étudiants qui ont la flemme et qui passent leur temps en soirée, quoi. C'est les étudiants de notre génération, c'est beaucoup plus que ça.
Et c'est en fait les gens qui pensent que on est ça, qu'on est des étudiants qui ne prenons pas nos responsabilités, etc. C'est encore les gens qui regardent la télé qui vont montrer toujours le même profil d'étudiants. Donc, ça montre qu'ils ont choisi le mauvais média, je pense, tu vois. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'intérêt avec YouTube, en effet. Et je trouve que tu représentes bien ça, tu représentes ces influenceurs 2.0 qui font des choses bien, tu vois, qui mettent en avant... qui mettent en avant... non, je trouve, tu vois, c'est des bonnes initiatives, tout ça. Il y avait aussi une question que je voulais te poser, parce qu'il y a d'autres sujets, je dirais deux au moins, que je voulais aborder avec toi, dont tu parlais dans une vidéo. T'as fait une vidéo assez étonnante pour tes 100 000 abonnés, où en fait, on s'attendait à que tu fasses une vidéo, merci pour tout, merci pour les 100 000 abonnés. Et en fait, il me semble que la première vidéo que t'as sortie, vers les 100 000 abonnés, c'était une vidéo où tu parlais de la pire période de ta vie,
mm-hmm.
qui était en noir et blanc, miniature noir et blanc. Ça attire l'attention, ça m'a attiré l'œil. Et je me suis dit, en fait, ok, bon, bah, en fait, comme pas mal de youtubeurs, finalement, t'as lancé une chaîne YouTube parce que tu te sentais pas forcément bien dans ton quotidien et c'était ton échappatoire à ce moment-là.
Alors, c'est pas tout à fait ça.
Ouais, dis-le avec tes mots, pardon.
C'est non, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais au lycée, c'était vraiment l'envie de justement m'investir dans ma passion, la vidéo, d'en apprendre plus sur le montage, c'était vraiment plus cette démarche-là, et du coup, comme j'étais à fond sur les cours, YouTube, conseil étudiant, voilà, j'ai tout réuni, passion vidéo, passion des cours, ensemble, et ça a fait ma chaîne YouTube, conseil étudiant. Mais ensuite, quand je suis rentrée en prépa, j'ai adoré ma première année, mais ma seconde année, je l'ai très mal vécue, et j'avais plein de problèmes à côté en plus des cours. Déjà qu'en prépa c'est important d'avoir une bonne base où tout va bien dans ta vie parce que les cours c'est assez compliqué. Là il y avait vraiment rien calé et donc je suis vraiment passée par une phase de dépression assez dure où j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir en fait. Et du coup j'ai quand même continué de faire mes vidéos parce qu'en fait c'était le seul truc qui m'apportait du plaisir au quotidien. Et en fait, je me disais, même si moi, je suis pas heureuse actuellement et que vraiment, il n'y a rien qui va, mais j'ai envie qu'au moins les gens qui voient mes vidéos, eux le soient, tu vois. Et du coup, j'étais vraiment exagérément de bonne humeur dans ces vidéos à cette période parce que je l'étais pas du tout. Enfin, je me forçais, entre guillemets, à la caméra pour avoir un big sourire, etc. Mais après, enfin, j'allais très très mal à cette période. Je n'étais pas du tout la même personne. Et en fait, c'est justement les retours de ma communauté et le fait de me dire que grâce à mes vidéos, j'ai apporté un petit brin de bonne humeur aux personnes qui les regardaient, qui m'a fait tenir. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de rebondir parce qu'à cette période-là, YouTube, c'était en fait mon seul pilier, la seule chose qui allait bien dans ma vie. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour expliquer que YouTube et ma chaîne YouTube et ce qu'on voit de moi, c'est bien plus que ça et qu'en fait... les gens, je les remercie d'être là, mais je les remercie d'être là depuis longtemps et en fait d'avoir été là pour moi une période où ils se sont pas forcément rendu compte parce que je l'ai pas montré que j'allais pas bien, mais que voilà, YouTube m'a énormément apporté et donc que je dois d'autant plus les remercier, quoi. Pas que pour les 100K, mais surtout d'avoir été là depuis aussi longtemps.
Ok, donc c'était un peu un... Tout le monde s'est aidé un petit peu.
Ouais.
Et toi, c'était un petit peu le syndrome du comique qui rentre chez lui en pleurant, en fait. Il fait rire les gens sur la scène et puis après, il rentre chez lui et, il est déprimé.
Ouais.
Okay. Mais c'est vrai que c'était une époque aussi, YouTube, t'as commencé en 2015, c'était une époque où il y avait beaucoup moins de youtubeurs et youtubeuses qui parlaient de comment ça allait, eux.
Mm-mm.
C'était plutôt justement un peu comme des comédiens.
Ils faisaient leur... Il n'y avait pas ce truc de vlog où on montre son quotidien. C'était vraiment, je donnais des conseils, face cam, je montrais ma routine d'étudiante. Mais c'était pas vraiment des vlogs, tu vois. Donc, on voyait pas vraiment mon quotidien. On savait pas grand-chose de moi. Donc forcément, à cette époque-là, en tout cas, j'ai évité de le montrer, quoi.
Et c'est vrai que maintenant c'est un petit peu l'inverse, c'est des youtubeurs qui parlent de leur chien, de ce qui se passe. Tout le monde connaît
c'est
le chien du youtubeur.
Il faudrait un juste milieu, je pense, parce que des fois je pense qu'on peut s'en passer de connaître certains détails.
C'est vrai, mais j'avais poussé un mini coup de gueule. Bon, tu me connais, je pousse pas des coups de gueule de manière régulière, mais j'ai fait à un moment, j'avais dit dans une vidéo, mais arrêtez de connaître le nom et du chien de votre influenceur et essayez de trouver votre passion. Tu vois, c'est des choses plus importantes, mais
ouais.
T'as des gens qui sont. C'est tellement facile en fait d'être. De devenir spectateur de la vie des autres, c'est addictif aussi.
C'est ça.
T'as trop envie de savoir, c'est ce que font très bien les producteurs de télé-réalité, tu vois.
Exactement.
Dès le premier jour, ils vont te faire comprendre qui est qui, et tu vas te dire, oh, mais du coup, j'ai trop envie de voir ce qui se passe si lui,
voilà.
Le charo, il va réussir à charo, si la fille qui a l'air vachement énervée dès le début avec l'accent de Marseille, comme par hasard à chaque fois, tu vois, elle va péter un câble contre tout le monde. Et tu vois, c'est tout le temps cette envie de rendre tout comme un spectacle,
c'est
peut
ça.
Devenir très addictif. Et donc, t'as raison, je pense que c'est bien qu'il y ait des youtubeurs qui parlent de plus en plus de ce qui leur arrive dans leur vie perso pour pas avoir que des comédiens qui sont déprimés, mais d'avoir des gens normaux qui ont des états différents au cours de la journée.
Exactement.
Mais en même temps, ouais, de pas tout rendre comme un spectacle, je pense que...
Il faut un équilibre.
Ouais.
Dans tout, il faut un équilibre.
Tu le fais assez bien, enfin tu...
Je sais pas.
Y a pas tu vlogs, mais il n'y a pas non plus 10 000...
Oui.
On sait pas tout de toi, quoi. Tu gardes ton petit...
C'est ça, j'essaie quand même de garder mon petit cocon. Enfin, j'ai pas trop envie que les gens voient aussi tout mon entourage qui, eux, ont pas forcément décidé d'être exposés, tu vois. Et puis moi, j'ai toujours ce truc où je suis pas non plus une youtubeuse de divertissement. J'ai envie que les gens... Je leur apporte quelque chose à travers mes vidéos, des conseils, des astuces qu'ils vont pouvoir appliquer. Et donc même quand je fais mes vlogs, j'ai quand même envie de donner des bons plans, des conseils, de vraiment apporter quelque chose d'utile. Ou à la fin de la vidéo, ok, on aura vu un petit bout de mon quotidien, mais on aura aussi surtout retenu des conseils, un mindset, des bons plans qui vont être utiles, quoi. Plutôt cette question d'utilité plutôt que de divertissement, je pense.
Ok. Et tu as parlé de... En effet, c'est un peu ça tes vidéos, c'est des contenus, des vlogs, des astuces concrètes pour les étudiants. Et il y a d'autres sujets aussi dont tu parles que moi, je n'ai pas pris conscience, tu vois, avant de voir des vidéos sur le sujet, surtout de femmes, en fait, qu'en parler. Je t'avais parlé un petit peu de... tu parlais de la pilule, parfois, dans tes vidéos. Et donc, moi, comme un gars de adolescent, il se dit bon bah ouais, je sais que c'est le truc que les filles prennent là, mais je sais à quoi ça sert quand même, tu vois. Mais je connais pas les effets secondaires, par exemple. Ouais. Et t'en as parlé dans cette vidéo, tu faisais un peu le lien entre l'acné aussi et la pilule, parce qu'il y a un lien. Et t'as fait un peu des vidéos mises à jour aussi, parce que je crois comprendre qu'il y a plusieurs pilules aussi et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes effets. C'est quoi maintenant que t'as eu pas mal d'expérience dans ce domaine-là et que t'as fait pas mal de vidéos, c'est quoi ton avis dessus? Est-ce que déjà tu recommanderais la pilule aux femmes par rapport aux effets secondaires? Bon, dis-moi, c'est quoi ton point de vue aujourd'hui déjà, parce que c'est un gros sujet.
C'est un gros sujet, et puis c'est un sujet hyper personnel à chacun, donc je vais prendre des pincettes, et vraiment c'est juste mon avis, et je pense que chacun a son avis, et il faut surtout se renseigner et aller voir plusieurs professionnels de santé pour aussi faire son avis au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que je me le suis fait, c'est en testant plusieurs choses. Mais c'est vrai que en fait, dès qu'on est adolescente, on va chez le gynéco, première chose qu'on nous recommande automatiquement, c'est de prendre la pilule, sans forcément nous dire il va y avoir tel effet, tel effet, tel effet, tel effet, tel effet, tel effet, tel effet. Et la liste est très très longue, vraiment. Si on regarde la liste des effets secondaires de la pilule, ça fait très très peur, vraiment. Et du coup, moi, j'ai automatiquement pris la pilule. Heureusement, je l'ai pris assez tardivement. Mais j'ai commencé à ressentir des effets secondaires qui étaient à la fois sur comment je me sentais aussi dans ma tête. Je me sentais pas normale, tu vois, je me sentais bloquée au niveau de mes émotions, je me sentais plus trop moi. Et j'avais vraiment ce truc où je me disais, il y a un truc qui est pas normal, et je sais pas ce que c'est. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, ah mais en fait, c'est depuis que je prends la pilule que ça me fait ça. Du coup, j'ai ensuite arrêté la pilule. Et dès que je l'ai arrêté, au bout de quelques semaines, parce que c'est aussi le temps que le corps fasse sa détox, mais je me suis dit, là c'est bizarre, parce que là je me ressens mieux. Et donc j'ai fait plein de tests comme ça pour voir, changer de pilule, et en fait à chaque fois que j'en testais, moi typiquement mon corps il était vraiment en mode no, il n'aimait pas ça, ça me faisait des effets secondaires aussi, où je me sentais mal dans ma peau, où j'ai eu beaucoup d'acné, mais quand je l'arrêtais j'avais quand même de l'acné, on me disait non mais t'as qu'à prendre la pilule, comme ça ça te cache l'acné, ok mais ça soigne pas le problème, enfin c'était un peu un capharnaüm pas possible. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur des moyens de contraception plus naturels, parce qu'on va pas se mentir, quand on est une femme, les moyens de contraception, on est en 2022, et dans tous les cas, il y a quand même des effets secondaires qui, je trouve, sont hyper graves et qui sont pas du tout pris en considération. En fait, quand on va chez des médecins, chez des professionnels de santé, voilà, on nous donne la pilule comme si c'était un bonbon, mais en fait, c'est un truc qu'on injecte à son corps tous les jours qui peut avoir des conséquences graves sur sa santé dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et sur le moment, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, de prendre un truc comme ça tous les jours, c'est pas anodin. Et je trouve ça dommage encore qu'en 2022, il n'y ait pas assez de moyens de contraception et que cette pression de la contraception repose quand même, on va se le dire, vraiment sur la femme. Et c'est pas un truc égal-égal où les hommes aussi, il y a ce truc ils peuvent prendre la pilule, tu vois. Pourtant, la pilule pour les hommes existe, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui la prennent?
Après, les préservatifs, ça coûte cher. Non mais c'est vrai, c'est un budget, hein. Mais en effet, c'est vrai qu'il n'y a pas tout l'aspect chimique,
c'est ça.
En fait, hormonal en fait.
Ouais, t'as l'impression qu'il y a juste...
C'est juste le budget, c'est juste le porte-monnaie.
T'as l'impression que c'est juste les femmes qui doivent tout prendre et juste ne pas se plaindre, alors que ça a quand même des effets conséquents sur la santé, tu vois. Et il y a beaucoup de possibilités différentes de moyens de contraception, mais c'est pas encore assez démocratisé, et puis je trouve qu'il n'y a pas non plus beaucoup trop d'évolution. Et après, bah, voilà, j'ai arrêté de... Enfin, pour faire court, j'ai arrêté de prendre la pilule et je me suis tournée vers un moyen de contraception qui est sans hormones, le stérilet en cuivre. Et depuis, it's okay.
J'ai l'impression que c'est pas mal à la mode, j'allais dire, en ce moment, parce que j'ai entendu pas mal de youtubeuses en parler. Et j'ai l'impression que c'est une solution qui est de plus en plus recommandée.
Bah, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment le truc en mode, c'est les femmes enceintes qui peuvent utiliser un stérilet en cuivre. Et pas les jeunes femmes, etc. Et maintenant, c'est de plus en plus démocratisé. Après, le stérilet en cuivre, c'est pas non plus anodin. Enfin, c'est vraiment un corps étranger que tu mets dans ton corps et que tu gardes pendant 5 ans. Et il faut vérifier parce que des fois, tu peux vraiment avoir des soucis, etc. Mais c'est quand même un des moyens de contraception les plus fiables et surtout sans hormones. Donc ça a ce mérite-là. Mais en fait, quand tu choisis un moyen de contraception, quand t'es une femme, t'as un peu l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra, tu vois. T'as pas de moyen de contraception, tu dis « Ok, nickel, je prends ça, tout va bien aller, c'est sûr à 100%, je prends aucun risque pour ma santé. » Non, dans tous les cas, tu prends un risque, et dans tous les cas, t'as l'impression que c'est toujours la femme qui doit prendre un risque, tu vois.
En plus, il me semble qu'il y a vraiment un côté addictif de la pilule classique où... Je crois que ma copine m'expliquait ouais, que en fait, ça te réduit les douleurs des règles, la pilule classique. Donc en plus, il y avait ce côté-là, je sais que ça ne va pas être très bon pour mes hormones, ça ne va pas mettre dans un état incroyable. Tu disais même un truc assez grave, tu disais que tu ne te sentais pas toi. C'est
ouais,
un truc,
c'est ça.
Ça fait flipper quand tu dis ça, c'est sûrement le cas, tu vois.
Mais je suis contente que tu l'aies regardé, tu vois, parce que je me disais... Est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui vont regarder la vidéo et s'informer par rapport à ça? Et je trouve ça trop cool que tu l'aies regardé cette vidéo-là.
Bah en fait, c'est parce qu'en fait j'ai une copine qui m'en parlait. En fait, t'as toujours besoin d'avoir un petit truc, d'être trop concerné.
Mm-mm.
Et par défaut, t'es pas concerné par ça, sauf quand t'as une copine. Et que la copine, elle passe par des états différents de 18h à 19h, tu vois.
Et
en une heure, il se passe des choses
et voilà.
Tu comprends pas. Ou ouais, tu te dis que bah elle est comme ça, sauf qu'en fait non, tu te dis bah non, il y a quand même une différence avant et après pilule. Et en fait, ça se passe surtout quand t'as une copine au niveau de la puberté, enfin au moment de la puberté, parce que c'est à ce moment-là que tu peux vraiment constater l'avant-après.
Avant-après, ouais.
Donc en fait, ouais, c'est juste j'en avais entendu parler à ce moment-là, on en avait beaucoup parlé avec elle, et après quand tu vois des vidéos sur le sujet, bon bah tu te dis bon, pourquoi pas en apprendre un peu plus. Mais
ouais, c'est trop cool en tout cas.
Mais bah ouais, après. Oui, bon, je suis pas expert, j'ai juste appris, juste regardé quelques vidéos sur le sujet, mais je trouve que ce soit bien qu'il y ait des youtubeuses qui en parlent, tu vois.
Ouais, et des mecs qui s'y intéressent aussi, tu vois, qu'on se sent un peu moins seul dans le truc. C'est cool.
et donc le stérile en cuivre est une option. Si je peux me permettre, s'il y a des gens qui produisent des stériles en cuivre, au niveau marketing, les gars, le nom est pas ouf. Le nom donne vraiment pas envie.
Il fait
donc,
peur.
Je pense que maintenant, il y a quand même des grosses équipes marketing dans le monde. Si on peut déjà changer de nom. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un truc de torture de l'époque romaine, tu vois. Il y a les gens qui se faisaient carteler et il y a les gens, on leur mettait un stérile en cuivre, tu vois. Ça pourrait passer, tu vois, un truc de torture. Donc, si je peux me permettre pour ça. Mais sinon, en effet, j'ai l'impression que c'est une solution qui était présentée de plus en plus par des youtubeuses.
En vrai, c'est pas la bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution dans la contraception, je pense pas.
Et est-ce qu'il y a des filles qui réagissent différemment à la même pilule aussi? Est-ce que c'est un truc très individualisé en fait?
Justement, moi, c'est pour ça que je disais que moi, je parle de mon expérience de la pilule parce que à moi, ça m'allait pas. Mais par exemple, j'ai des copines qui prennent la même pilule depuis 6-8 ans. Et qui n'ont aucun problème, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper personnel. Mais voilà, elles n'ont aucun problème aujourd'hui. Est-ce qu'elles en auront plus tard à cause de la pilule? Ça, on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, les études le prouvent que oui, tu vois. Et je trouve que c'est quand même assez inquiétant et grave de recommander comme ça, de prendre quelque chose tous les jours qui peut vraiment avoir un impact assez considérable sur la santé. Et je pense que c'est important d'en être conscient, tu vois. Même si on prend... tous les jours et qu'on se dit on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de contraception qui nous correspondent, d'être au moins conscient de ça, c'est important de ne pas le prendre à l'aveugle.
Surtout qu'il y a un peu un effet de mode aussi où je me rappelle que quand j'étais en soirée par exemple et qu'à 20h il y avait toutes les alarmes des filles qui sonnaient, qui prenaient leur pilule, tu vois, il y a vraiment cet effet de mode de je prends ma pilule et c'est là où c'est dangereux, c'est quand en effet un médicament qui n'est pas sans effet secondaire, c'est un effet de mode et tout le monde le prend.
Mm-mm.
Et c'est vrai qu'en effet, ben, comme c'est, les effets sont un petit peu individualisés, il y a aussi des filles qui ont des douleurs moins fortes pendant les règles que d'autres. Et donc l'argument de la pilule réduit les règles, la
Ouais.
douleur des règles, c'est, ça devient un argument très important pour certaines.
C'est ça, mais bon, après, le truc, c'est que bah, les règles qu'on a avec la pilule, c'est des fausses règles. Donc, c'est grave, quoi. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas tes vraies règles. Enfin, c'est pas... c'est un truc artificiel qui se produit dans ton corps. Et moi, j'ai trouvé que justement, du moment où je suis passée au stérilet en cuivre et à une contraception plus naturelle sans hormones, bah, je me suis vraiment retrouvée moi au niveau de mes émotions, au niveau de comment je me sentais en fait dans ma tête, dans mon corps. Et c'était quand même beaucoup plus simple, tu vois, au quotidien, même si bah, t'as la douleur des règles, mais au moins, toi, t'es toi-même, quoi, et t'as pas de pic chelou à cause des hormones
Tu
ou...
te trouves plus stable
Ouais.
depuis que tes hormones sont régulées naturellement en fait.
Ouais, j'ai vraiment vu la différence avant, après pilule. Après, j'ai des copines qui la voient pas. Moi, c'est parce que justement, en fait, je me connaissais sans la pilule, comme je l'ai prise tardivement. Et donc, du coup, une fois que je l'ai prise, j'ai vraiment senti ce truc où je me disais, mais quand je prenais la pilule, j'étais tout le temps triste, voire très triste. Mais j'étais jamais pump it up, tu vois. Et une fois que j'ai arrêté la pilule, c'était au début, le temps que tes hormones se stabilisent, c'était vraiment de soit très triste, soit très heureuse. Il n'y avait pas de juste milieu. Et après, au fur et à mesure, ça s'est stabilisé et je me sentais surtout libérée d'emploi, tu vois. Inconsciemment, je me disais, ouais, je prends quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et je pense que ça aussi, ça me pesait inconsciemment. Et même ça, je me sentais libérée.
Ouais, c'est ça, c'est comme les gens qui veulent mieux manger, une fois qu'ils prennent conscience de ce qu'ils mettent dans leur corps, parce qu'ils se disent, bon bah c'est un McDo, c'est un burger, tu vois. Une fois qu'ils ont pris conscience par exemple de ce qu'ils mettent dans leur corps, ou des aliments qu'ils mettent de manière régulière dans leur corps, en fait c'est plus simple d'arrêter ensuite. Et une fille, quand t'es, j'imagine, quand tu sais ce que tu mets dans ton corps chaque jour, bah déjà l'effet placebo, tu sais, de savoir ce que tu mets,
Tout à
ça peut
fait.
t'affecter. Et ce que tu dis, bah, ça me parle beaucoup parce que le fait que tu te sentais plus toi quand t'avais ta pilule, c'était un peu pareil avec mon ex, tu vois. Donc c'est pas si à toi plus elle, plus d'autres amis qui en ont parlé, bon, c'est que c'est pas un cas isolé, tu vois. Donc
Ouais, bah quand j'ai fait ma vidéo, justement, j'ai eu énormément de retours, je pensais pas, parce qu'en plus, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pris grave des pincettes, parce que justement, je sais que c'est un truc hyper personnel, mais j'ai eu plein de retours qui me faisaient me dire, ok, je suis pas folle, il y a vraiment un truc qui est pas normal, quoi. Donc, ouais.
Mais les gens sous-estiment l'influence des hormones, hein.
Ouais.
Les gens pensent être maîtres de ce qu'ils ressentent, enfin qu'ils seront toujours plus forts que leurs émotions, mais en réalité, la plupart des personnes sont dictées par les émotions plus que par leur raison, en fait.
Exactement.
Et donc, le fait que tu l'aies ressenti, bah, c'est bien.
Ouais, parce qu'après, tu prends plus le pouvoir de ta vie finalement.
Ok, bah, c'est bien. Écoute, c'était un sujet que je voulais aborder et c'est cool que t'aies pu en parler, que t'aies parlé de la solution aussi que t'avais trouvée pour l'instant, même si, comme tu l'as dit, rien n'est parfait encore.
C'est ça, c'est vraiment la peste ou le choléra.
Ah ouais, c'est à ce moment-là, c'est même pas une solution.
Bah, c'est du coup, il y a pas d'hormones avec le stérilet, donc c'est cool. Mais il y a quand même des contraintes où justement tu dois faire, par exemple, enfin, si on rentre vraiment dans le concret, tu dois faire des échographies chaque année pour voir si c'est pas déplacé. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui le stérilet ça marche pas, t'as des douleurs de règles qui sont décuplées, ou justement le truc se déplace et du coup tu peux arriver à avoir bah, des grossesses avec un moyen de contraception. Pourtant, enfin, il y a plein de risques en fait, comme dans tous les moyens de contraception. Il n'y a pas zéro risque à part le préservatif.
Et
Ou
encore,
encore, non,
ça y est,
même
le
pas.
fameux pourcent.
Voilà, exactement, même pas.
Le fameux pourcent qui met le doute.
Exactement, mais il n'y a pas zéro risque pour aucune contraception.
Ouais, ok, intéressant d'en avoir parlé un petit peu. C'était le sujet, ouais, c'était ça, je voulais parler un petit peu de ça, de l'indépendance. Ça fait partie de l'indépendance aussi, prendre le contrôle de ses émotions. C'est quand même, déjà que c'est pas facile de gérer ses émotions sur une base régulière, tu vois, quand t'as, en fonction des personnes aussi, parce qu'il y a aussi des questions d'hypersensibilité qui
Ah,
concernent pas mal
on
de
pourra en parler
personnes.
ça aussi.
Ouais. Tu trouves qu'il y a une différence de sensibilité de base entre les filles et les garçons, déjà par exemple, ou est-ce que tu trouves que c'est très individualisé?
Je pense que c'est très individualisé. On a peut-être ce cliché, oui, des filles qui sont plus sensibles, etc. Mais pour avoir quand même dans mon entourage un large spectre, je dirais que c'est juste que peut-être que. Bah, les mecs, il y a un peu ce truc dans la société où ils vont moins montrer leurs émotions. Et pour autant, ça veut pas dire qu'ils sont moins sensibles, tu vois. Je pense qu'il faut aussi savoir un peu faire la part des choses entre ce qu'on nous montre et ce que les gens ressentent vraiment. Et je pense que non, il n'y a pas ce truc où les filles sont plus sensibles que les mecs. Il y a beaucoup de mecs qui sont plus sensibles que les meufs. Juste, ils le montrent moins. Et on est peut-être moins à l'écoute aussi, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper sensibles autour de nous, mais on fait peut-être moins attention, on est peut-être moins à l'écoute. Donc non, je dirais pas, non.
Ok. Moi, je trouve qu'il y a quand même une petite différence.
Mais, ouais.
Ouais, j'en ai parlé avec un ami, il avait assez bien décrit la situation. Il avait dit que pour les garçons, il y avait quatre états, en gros, par lesquels ils passaient dans une journée parfois. Donc triste, énervé, il s'ennuie et il est concentré. Et pour les filles, il y avait un spectre plus grand, tu vois.
Il y a plus de nuances.
Voilà, ou parfois, ça, c'est un peu comme quand tu fais des travaux et que t'as la palette avec les couleurs, là, tu vois. Bah, les garçons, ils ont rouge, bleu, vert, jaune, tu vois. Et les filles, t'as des mélanges de triste, énervé, ou parfois triste et je m'ennuie, triste et frustration, tu vois. Il y a.
Bah, pour des fois passer par plein d'états, et du coup, bah, mon copain est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'essaie de lui expliquer la situation et il ne comprend pas.
Donc oui, il y a peut-être une petite différence de
ouais, voilà.
Dans les variations. Vous avez accès à plus d'émotions, à plus de mélanges d'émotions.
Ouais, je pense que ça c'est vrai et je pense qu'il y a aussi le truc où nous on se prend la tête pour des trucs. Pourquoi on se prend la tête sur ça quoi? Enfin, des fois, moi j'ai trop envie d'être un mec 24 heures. Juste pas me prendre la tête. C'est pas une question d'hypersensibilité, mais juste pas me prendre la tête sur certains trucs qui en valent pas la peine, tu vois.
Donc tu trouves que les gars se prennent moins la tête de manière générale sur des sujets
Bah, il y a toujours. Voilà, on fait une généralité, mais en tout cas, quand je vois mon mec par rapport à moi, c'est sûr.
Du coup, c'est pratique d'avoir. Bah, c'est vous complétez bien quoi. Il y a des moments
oui.
Où tu. Et quand. Ouais, et quand on regarde un film et que toi tu pleures et que lui non, tu vas lui expliquer et là il va se mettre à pleurer parce qu'il a pas encore. Il a pas compris exactement la dimension émotionnelle
ça.
Du.
Non, mais...
La profondeur émotionnelle
c'est
du film.
C'est une catastrophe à chaque fois qu'on regarde un film et qu'il y a un moment triste, je sais qu'il a ce truc dans le coin de l'œil, il est là.
Il sait que tu pleures.
Elle va pleurer. Et moi je le regarde en mode.
Bon, ouais, il y a peut-être une petite différence. Mais c'est vrai que ouais, moi, je l'ai vu avec mes parents quand on regardait des films. C'est vrai que je sais pas, ça.
Mais moi, je pense que c'est pas une question d'hypersensibilité, c'est plus une question de libérer ses émotions ou pas. Et je pense que justement, les meufs, on a plus ce truc où on se libère de ses émotions au lieu que ça devienne un fardeau. Alors que certains mecs vont retenir ses émotions jusqu'à ce que ça en fasse une boule en fait, de frustration, d'énervement. Qui vont peut-être rejeter plus. Ben.
D'un coup, ok.
Voilà. Tu vois.
Pourquoi pas en vrai, mais c'est possible, ouais.
Ma théorie.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est très individualisé, donc tu trouveras toujours un exemple
d'un
gars qui sera peut-être beaucoup plus sensible qu'un autre.
Voilà.
D'une fille qui sera hyper. Tout le temps, tu vois, rationnelle, stable, et qui va passer par zéro état émotionnel différent, tu vois.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut. Pas du tout se mettre en tête, par exemple, quand on passe par plusieurs émotions et tout, en mode « Oh, c'est pas normal, je suis pas normal, etc. » Personne n'est normal. Il y a tellement de personnes différentes sur cette terre et je pense qu'il faut pas se mettre une pression en plus en se disant « Non, mais mon comportement, etc. » Si on sent qu'on est trop dans l'extrême, bien sûr, c'est important de se poser et de se dire « Bon, ben, est-ce que je peux travailler sur ça, etc. » Mais il faut pas non plus trop se mettre la pression en mode « Non, mais moi, pourquoi je suis pas comme ça, etc. » Et être quand même bienveillant envers soi-même.
Ok. Et ben, de toute façon, je pense que c'est ça le but des réseaux aussi, c'est que à la télé, pareil. En fait, à la télé, je pense que ça vient de ça. À la télé, le temps à l'écran, une minute à l'antenne coûte hyper cher, tu vois.
Mm.
Donc tu te dis, je vais pas faire l'effort de... Genre, je vais aller à l'essentiel. Je vais prendre une personne qui l'a plus dans les codes possibles et je vais la montrer. Alors que sur YouTube, il n'y a pas de temps à l'antenne. Mmh. Tu vois, tu peux montrer qui tu veux. Ça ne coûte pas plus cher de faire une vidéo de 18 ou 30 minutes. Ça ne coûte pas plus cher de faire une vidéo avec des personnes. Tu peux prendre des personnes différentes aussi dans des tournages plus facilement. À la télé, ce n'est pas pareil parce qu'il y a une pression beaucoup plus grande et des moyens de production beaucoup plus grands. Donc, tu ne peux pas prendre n'importe qui pour animer une émission.
Ouais.
Alors que sur YouTube, je trouve qu'on a montré maintenant avec les dernières années un spectre de personnes beaucoup plus grand que ce qu'on voyait à la télé. Et je pense que c'est juste aux personnes de se situer sur le spectre.
Ouais.
On a beaucoup parlé, je trouve, d'hypersensibilité depuis des années. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont dit « Bon, bah du coup, je fais partie du spectre.
Mm.
Je suis au bout du spectre de la sensibilité. » Puis je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire « Bon, bah en fait, je suis au milieu ou je suis moins sensible que la plupart des personnes.
»
Je pense que c'est juste bien ouais, de se mettre quelque part sur le spectre, mais au moins d'avoir sa place sur le spectre. Donc... Donc voilà, bah écoute, c'est un bon sujet. Et j'aime bien poser aussi quelques questions pour finir d'introspection, pour finir mes podcasts. Si tu savais que tu allais mourir dans 3 ans, qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien maintenant?
Oh my god!
Désolé d'avoir cassé l'ambiance.
Elle est intense comme question.
Et pourtant, c'est le genre de question que je me pose pas mal. Ouais.
Qu'est-ce que je changerais du coup maintenant là? Bah du coup je gérerais mieux mon budget parce que je sais qu'il me resterait que 3 ans donc du coup je m'organiserais plein de trucs que j'ai envie de faire, bah je les ferais là dans les 3 ans forcément, du coup je m'organiserais mieux mon budget et je pense que aussi j'oserais faire plus de choses, j'ai un peu plus osé cette année faire des choses seules etc et ça m'a vraiment encore plus donné envie d'oser et de foncer si j'ai envie de faire quelque chose. Et de foncer d'autant plus si j'ai peur de faire cette chose, tu vois. Donc, je pense que j'oserai encore plus et je me mettrai pas de barrière. Je sais pas ce que ça donnerait, mais...
Oula, ça donnerait une Léna 2.0, là, qui... Non, mais c'est le but de la question, c'est de se donner du courage parce que quand on remet les choses dans leur contexte et qu'on rappelle qu'il y a la mort dans le jeu dans lequel on joue, tu vois, bah ça, je trouve que ça remet un peu les choses en perspective et ça permet à des personnes de faire plus de choses, tu vois.
Ouais.
Peur de trucs, bah, tu parlais de la peur du regard des autres tout à l'heure, bah voilà, c'est un truc qui disparaît normalement quand tu te dis il me reste plus que quelques années à vivre.
Clairement.
Donc,
clairement, okay. Ouais, se concentrer sur l'essentiel et je pense que les choses les plus simples, les meilleures, tu vois, qu'on t'apprécie le plus.
Mais c'est ce que tout le monde me dit, hein. Dès que je pose cette question, bah, tout le monde me dit bah, je ferai plus de choses.
Merde, je suis pas original.
Mais... Non, mais c'est parce que la plupart des personnes sont dans cette. Sont dans les peurs du quotidien, mais oublie la grande peur de tous en vrai, celle de la mort, donc ça permet aux personnes de sortir, de s'élever un peu plus, tu vois, des problèmes qu'on a, les trucs qui nous font peur, les commérages, les petites embrouilles du quotidien, tu vois, je trouve que... Ok, donc réponse intéressante, et dernière question, c'est quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur?
Mais du coup, je pense que ta réponse va être un petit peu bizarre.
C'est quoi?
C'est de publier une vidéo sur YouTube.
Une en particulier ou...
N'importe laquelle.
Depuis, à chaque fois, là, ces dernières semaines que t'as publié une vidéo, t'avais un peu peur?
Ouais.
Ok.
Parce que, en fait, je donne tellement, genre, mon énergie, de mon temps, tu vois, dans mes vidéos, que ce soit au niveau de quand je filme, pour que ce soit beau, intéressant, que j'apporte du concret, et en même temps, au niveau du montage, de faire que ça rentre bien... Et ouais, je passe tellement de temps dessus et c'est vraiment genre toute ma vie, tu vois, quand je fais mes vidéos, que du coup j'ai toujours peur de la publier, que ça plaise pas, que je sois à côté de la plaque et des statistiques YouTube. Vraiment, j'ai ce truc où j'ai la pression des statistiques YouTube et j'arrive pas à m'en libérer alors que, en plus, c'est pas vraiment mon métier, tu vois, je suis encore étudiante donc. Je m'en fous de base des statuts YouTube, mais il y a un peu ce rappel de l'app studio de YouTube qui te dit « Ah, votre vidéo, elle est 5 sur 10, 8 sur 10, et toi, t'es là, mais je t'ai rien demandé, en fait, qu'est-ce que tranquille ?»
C'est vrai qu'on peut même pas désactiver ça. Alors, j'en ai parlé avec beaucoup de YouTubeurs que j'ai eu sur le podcast. YouTube, maintenant, analyse nos vidéos et les classe sur 10, donc on est toujours à l'école, on a des notes 1 sur 10, c'est bien, ça. 10 sur 10, c'est pas bien. C'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse de l'école. Mais ouais, c'est vrai que ça met la pression. Et pour les gens bah, comme toi qui sont des créateurs, créatrices qui font des choses par passion à la base, bah, ça t'oblige à avoir ce côté statistique et à te mettre la pression des chiffres parce que les chiffres, ça fait flipper. En fait.
C'est ça.
N'importe quel chiffre, hein, les finances, de manière générale, ça fait flipper beaucoup de personnes. Et les statistiques, bah,
ok. C'est ça.
Donc ça te fait peur maintenant de publier. T'as une petite partie de toi où c'est pas que du kiff quand tu mets une vidéo en ligne, t'as aussi toutes ces peurs-là. La peur de faire des heures de montage pour rien, la peur de que ça blesse.
Pas pour rien, parce qu'il y a toujours pas mal de personnes tu vois, qui regardent. Mais quand même, quand c'est une vidéo où j'ai passé vraiment beaucoup plus de temps de montage que d'habitude. Bah, je me dis, ok, j'ai passé beaucoup plus de temps, mais peut-être que le sujet va moins plaire ou moins intéresser. Et même si, bah, du coup, j'ai peur, mais je publie quand même. Mais j'ai quand même toujours ce truc où ouais, j'ai peur que ça marche pas ou que les gens se lassent ou aiment pas. Ou... Restez, je vous aime.
Moi, je pense que oui, bon, ils ont pas de raison de partir. Hein. Enfin, ok.
Rassure-moi.
Ok. Bon, bah, bon, ça va comme peur. Enfin.
Oui.
T'as pas
peur. Ah ouais, il y a pire. Hein.
Ouais, c'est
voilà.
Ça. Mais c'est...
Non.
Je comprends la peur.
Ouais.
Ok. Ok, une dernière chose à ajouter, un petit conseil à donner pour finir ce podcast où moi j'ai traité les sujets dont je voulais parler.
Eh ben, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous avez tenu...
une heure passée, ouais.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Et c'est trop cool parce que ça, on a vraiment échangé, j'ai l'impression, sur un spectre de choses hyper, hyper large. Et c'est trop cool de prendre le temps de se poser, de se voir en vrai. Et si j'ai un conseil à donner, c'est d'écouter beaucoup plus de podcasts au quotidien, en faisant son ménage, en voiture, ou je sais pas, n'importe où, pendant les transports, d'écouter le plus de podcasts possible parce que je pense que ça nous permet de nous élever encore plus et d'un peu découvrir son potentiel et que nous aussi on peut faire plein de choses et justement d'arrêter d'être spectateur et de se dire que voilà, nous aussi on peut et ne pas regretter plus tard. Ne pas se laisser envahir par la flemme.
Ça, c'est le conseil la fameuse flemme.
Exactement.
Contre laquelle on part en guerre et contre laquelle tu es parti en guerre il y a quelques années.
Exactement.
Et tu as bien fait.
Si j'ai un conseil à donner, c'est faut dire fuck monsieur flemme, adios.
Identifiez vos ennemis et considérez que la flemme fait partie de ça. C'est pas, les ennemis, c'est pas que des gens parfois, c'est aussi des.
C'est surtout.
Des concepts comme la flemme, quoi. Enfin, des réalités comme la flemme. Ok, bon, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi, dans ton nouvel appartement parisien. C'était très cool de pouvoir venir ici. Et puis, je vous invite à aller voir les contenus que fait Léna sur son podcast Dimanche Pépouze, sur sa chaîne YouTube Léna Adorable et sur Instagram Léna Adorable tiré du bas.
Tu l'as le tiré du bas.
Voilà, c'est ça.
Bah oui, il y avait Léna Adorable tout court, c'était déjà pris.
Et oui, donc Léna Adorable tiré du bas sur Instagram. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Ciao, ciao.
Merci, ciao, ciao.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.